Ah, bienvenue à Deux filles en liberté, ici Texane. Bonjour, belle.
Bonjour, ma chère. Ça va bien?
Ça va?
Ben oui, ça va. Hey, on est en pleine semaine des Jeux olympiques. Est-ce que tu suis ça un peu?
Oui, j'ai suivi. J'ai trouvé... j'étais... Bon, OK, je le dirais pas trop, là. Fière d'être canadienne, bon, slash québécoise, là. Mais, tu sais, j'ai trouvé que le Canada avait pas mal de bon sens.
Ben, le Canada performe très bien, là. C'est assez... c'est remarquable. Moi, je m'attendais vraiment à ce que la Russie, là, étant donné que c'est la première fois depuis l'effondrement du système communiste, en parenthèse, qui ont les Jeux. Alors, je m'attendais vraiment... D'habitude, les pays qui accueillent, c'est les médailles, ils rentrent à pelleter, puis je m'aperçois, là c'est quasiment comme une guerre entre les États-Unis et le Canada. Il y a les filles au hockey qui ont gagné mercredi, je sais, il y a... Moi, j'essaie de suivre ça, mais je veux dire, j'y vais, j'aime le ma télé, tout ça. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que, étant donné qu'on est aux États-Unis, c'est les sports américains ou les athlètes américains qui vont être mis sur le piédestal, là, qui vont être mis en évidence. Mais on n'a pas pu manquer, on n'a pas pu passer à autre chose que même l'équipe, je veux dire, même aux États-Unis, on a été capable de présenter plusieurs épreuves canadiennes, dont celle des bosses. Moi, je me rappelle, là, je ne sais pas si c'est un sport assez récent, là. Je me rappelle, dans le temps, il y avait des athlètes, il y a à peu près une vingtaine d'années, ça venait juste d'être initié, il était, j'ai perdu son nom, mais je pense que c'est en 92, puis l'équipe canadienne était forte, 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 puis moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une bonne compétition, mais je m'aperçois qu'autant chez les filles que chez les garçons, le Canada performe de façon extraordinaire, fait que...
Ouais, puis tu sais, il n'y a pas moi, j'ai suivi, puis tu sais... Il y a des sports qui vont m'intéresser plus que d'autres. Il y en a que c'est moins, tu sais, je sais pas, c'est plus plate à regarder. Mais moi, j'aime bien les compétitions de patinage.
Oui! Hey, j'ai écouté le curling, toi. Moi, c'est comme déjà le curling, c'est quoi comme sport? Mais je t'avouerais qu'il y a un côté stratégique là-dedans. Je peux pas dire que je passerais 4 heures à regarder ça. Mais l'autre fois, j'écoutais justement, je pense c'était les Américaines contre, c'est un pays scandinave, et ils se sont fait clencher. Non, c'est l'Angleterre, je me trompe carrément. C'est l'Angleterre contre les États-Unis. Mais il y a un côté stratégique. Ça me fait beaucoup penser aux échecs, en fait. Fait que, tu sais, il y a un côté performance, là, avec le ballet, tout ça. Mais la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, qu'est-ce que ça fait, là, le curling aux Olympiques? Mais j'avouerais que ça c'est assez stratégique. Puis aussi, ce que j'aime regarder, c'est les fameux... les downhill, les courses de ski alpin, là, où est-ce que tu penses tout le temps qu'ils vont se tuer, là, puis...
Oui. Puis moi, c'est ça, mais j'aime ça regarder, je trouve ça bien. Sauf que je viens tellement stressée. Ben oui. Je regarde, je dis, oh! Tu sais, puis je me sens tellement mal quand il y a un athlète, je sais pas, je suis seule à faire ça, mais je me sens pas bien. Tu sais, Colin, tu sais, je trouve ça vraiment plate pour eux, surtout quand ils reçoivent des notes, là, qui ont vraiment, tu sais, vraiment pas d'allure. Ouais. Tu dis, ah, il est allé là, puis il se retrouve avec une note qui a pas de sens.
Il y a le fameux, c'est triste. Quoi, j'ai vu aussi, le snowboard. Ça, j'avais jamais vu ça. Tu sais, je sais que c'est pas la première année qu'ils ont ça, des compétitions snowboard, mais je trouvais ça c'était assez intéressant. Puis encore une fois, le Canada, je pense qu'il a été capable de s'en sortir assez bien. Je pense qu'il y en a une qui a gagné une médaille, mais écoute, j'ai la mémoire des fois, là, mon cerveau est un peu jello à cause de mon bébé qui me demande beaucoup de temps. Mais moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, je sais pas si tu as vu, puis j'ai aucune idée si c'est quelque chose qui est parti seulement dans les réseaux sociaux ou même ça se fait dans les médias ou ça s'est fait au Québec. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que il y a beaucoup de gens, politiciens, surtout des indépendantistes, qui se sont comme appropriés les athlètes. Puis ça, j'ai déjà vu ça dans le passé. Mais là, ça m'a comme agacée parce que j'ai un exemple vraiment spécifique, c'est les sœurs Dufour. C'est les deux sœurs dont une a gagné, je pense, la médaille. Oui, elle a gagné la médaille d'or et la deuxième sœur a gagné la médaille de bronze pour justement l'épreuve de ski de bosse. Et on les voyait une belle photo, les deux ensemble avec des belles mitaines rouges. la feuille d'érable et tout ça. Puis, bon, ben, on est arrivé avec une espèce de transformation. Il y a des petits coquins qui sont arrivés, puis ils ont tout changé ça. Ils ont mis des mitaines bleues, puis, bon, on s'approprie les jeunes athlètes, ces jeunes femmes qui ont réussi, puis on leur met l'effigie québécoise, la même.
Ben, c'est ce qu'on disait, puis j'ai vu plein de trucs comme ça qu'on a mis, tous les athlètes canadiens, mais pas québécois, là, canadien, anglais. Uh-huh. On les mettait sur une grille. On mettait, mettons, Canada, mettons deux, puis je sais pas moi, Québec. Puis il y en avait plus. Puis on disait bon, le Québec est meilleur. Et comme si c'était et on ajoutait Québec à la liste des pays aux Olympiques. T'as-tu vu ça? Moi, j'en ai vu plusieurs grilles comme ça, des gens qui ont ajouté.
J'ai vu, là, c'était quoi? C'était le classement des médailles. Ça, j'ai eu ça mardi. C'était assez... Tu sais, ça montrait les Pays-Bas premiers, le Québec numéro 2, la Norvège numéro 3, les États-Unis. Le Canada était... Ah oui, le Canada était 10e. Fait qu'ils n'avaient pas oublié le Canada. Ils avaient juste enlevé les athlètes québécois pour les mettre à part. Puis le Canada était rendu maintenant 10e. Mais moi, la question que je me pose, de un... OK, on parle de patriotisme. Puis moi, je peux pas m'empêcher de voir le visage de ces athlètes-là puis de voir comment ils sont fiers. Moi, je pense pas qu'ils sont fiers d'être Canadiens parce qu'ils sont fédéralistes, quoi. Mais ils sont fiers de représenter une entité qui les rallie, qui les unit. Puis, arriver avec une espèce de guéguerre encore entre le Québec. Je sais pas si l'Alberta fait la même chose. Je sais pas si l'Ontario fait la même chose. Crois-tu, toi?
Non.
Moi, je crois que c'est typique aux Québécois. Et vois-tu, ce phénomène-là ne se serait certainement jamais passé si les Québécois ne performaient pas. Puis là, moi, ça m'amène à penser, là, parce qu'il y en a qui disent, c'est comme ils s'approprient justement cette espèce de gloire. Mais si jamais le Québec était indépendant ou avait été indépendant, ces athlètes-là auraient-ils performé autant? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que faut pas oublier que ces athlètes-là, pour être rendus où est-ce qu'ils sont rendus, il faut qu'ils ils fassent partie des équipes nationales. Et ces équipes-là nationales sont généralement supportées par des fonds fédéraux. Il y a l'équipe, bon, c'est ça, parce que moi, j'ai déjà fait de la compétition de natation. Bon, tu as le côté régional, tu as le côté provincial, tu vas même, ça commence au niveau municipal, puis ça monte graduellement. Mais quand tu es rendu un athlète national, les budgets et le type d'avantages que tu as pour pouvoir t'entraîner puis performer, souvent, ça vient, bon, tu as des sponsors, mais souvent, ça vient des fonds qui sont d'ordre fédéral quand tu es rendu à ce niveau-là. Puis moi, ma question, c'est de savoir, tu penses que ces athlètes-là auraient été capables de performer aussi bien puis d'arriver à des résultats semblables s'ils avaient été dans une République du Québec ou je ne sais pas quoi.
Une République du Québec, oui. Ben, je ne sais pas. Je sais une chose, par contre, c'est que ça prend énormément de sous pour... de fonds pour pouvoir envoyer ces athlètes-là où ils sont. Puis souvent, ils vont être obligés le ski, les athlètes vont pas s'entraîner au Québec. Hein. Je veux dire, les athlètes vont aller s'entraîner ailleurs.
Ben, c'est
vont
ça,
aller s'entraîner,
c'est rendu
à certains en Alberta, Colombie-Britannique, parce que c'est là que les grosses montagnes sont, c'est pas tellement au Québec, hein. Puis mais il y en a plusieurs aussi qui vont aller s'entraîner aux États-Unis. Il y a plusieurs athlètes même au niveau international qui vont venir ici aux États-Unis ou même au Canada pour aller s'entraîner. Fait que tu sais, mais ça prend vraiment beaucoup de fonds. Est-ce que le Québec pourrait se le permettre? Bon, il y en a qui diraient que oui parce que le fédéral nous coûterait cher. Je sais pas pourquoi je m'inclus encore quand je parle du Québec, mais bon. Je m'inclus tout le temps dans le « nous », là. Mais en tant que Québécoise, j'imagine. Mais je sais pas. C'est une question, en fait, sans réponse. Non. Est-ce que ces athlètes-là seraient où ils sont si ils n'étaient pas supportés par le Canada, par le fédéral? Bon,
Ben déjà qu'on est supporté financièrement avec la péréquation par le fédéral au point de vue économique. Puis tu parlais des athlètes, justement, il y a des Japonais, il y avait un Japonais justement qui s'entraîne aux États-Unis. Il y avait un autre athlète pour le patinage artistique, je m'en souviens plus, mais son coach était d'Ontario. Il s'entraînait, il passait sa vie en Ontario, mais il représentait son pays. Alors, ouais. Vois-tu, c'est vrai, il y a cette espèce de maintenant, il n'y a plus de frontières, là. Pas parce que tu appartiens, en fait, à tel pays que tu dois t'entraîner, tu peux t'associer avec d'autres nations. Et on dirait que, justement, cette espèce de frontière psychologique, là, au Québec, c'est comme, c'est juste avoir ça, moi, ça me fait rire, là, d'arriver puis de dire, ben, nos Québécois, c'est grâce à l'endroit où est-ce qu'ils sont nés, qu'ils ont performé. Puis
dans la génétique, c'est la génétique.
Ouais, c'est ça. Mais sérieusement, je pense que oui, il y a un peu de génétique. J'ai l'impression que il y a un côté il y a des gens qui ont plus d'affinité à performer que d'autres, c'est pas tout le monde est pareil, né au même pied. Il y a des gens, des jeunes, il y a des athlètes là, je veux dire ils performent parce que à quelque part, il y avait quelque chose dans le sang. Mais le fait qu'ils soient au Québec, je pense pas que c'est le cas. Mais comme tu dis, souvent ces athlètes là, pour avoir justement, quand j'étais plus jeune, fait de la compétition, puis je me suis pas rendue au point de vue, moi j'étais arrêtée au point de vue provincial, mais j'ai connu des athlètes, eux qui ont monté. Même je m'entraînais à Montréal, à l'époque où je m'entraînais, il y avait Annie Pelletier qui faisait de la compétition plongeon, elle s'entraînait au même centre que moi. Puis on se courtoisait, on s'est rencontrés plusieurs fois, en fait, je la voyais, on avait les mêmes cours au cégep. Puis elle s'est rendue au point de vue national, international, et rendue à certains points, je pense qu'il fallait qu'elle aille s'entraîner à l'extérieur du Québec, ouais. Parce que justement, l'équipe Canada a des exigences comme ça. C'est pour ça que, bon, j'ai trouvé ça cocasse, je me suis dit, est-ce que c'est juste un phénomène des médias sociaux ou encore c'est quelque chose qui se transperce à
travers. Ben c'est leur appartenance parce que ces gens-là ils ont une appartenance différente. Oui. Puis tu sais en même temps je suis capable de comprendre parce que tu sais je vais être honnête avec toi. Je sais pas si t'as le même feeling mais disons que bon où est-ce que t'es en Arkansas, tu rencontres un Canadien puis tu rencontres un Québécois. Tu vas avoir beaucoup plus de nicroche avec le Québécois qu'avec le Canadien. Tu comprends-tu? Donc, tu vas... tu sais, je sais pas comment... j'ai peut-être moins d'affinité avec quelqu'un qui vient de l'Ouest canadien que quelqu'un qui viendrait, mettons, du Québec, même si on vient du même pays. Pas puis il y a beaucoup à voir avec la langue, oui, mais tu sais, la culture, parce que ouais. Tu sais, la culture québécoise, elle est particulière si on compare avec l'Ouest canadien ou tout ça. Puis la culture anglophone, elle est différente, là. C'est vraiment différent. Donc, j'ai beaucoup plus de nicroche avec ça. Donc, de voir un Québécois performer, un athlète performer et gagner, ben ça va me mettre plus fière que si c'est un Canadien.
Je t'avoue, non, moi, ce côté-là, parce que regarde, il y avait le jeune Bilodeau qui a gagné également. Le fait que ça soit marqué Alex Bilodeau, puis en bas, c'est marqué le nom de sa ville. Il y en avait un qui venait justement de pas trop loin d'où est-ce que j'ai passé, j'ai vécu. T'es fière parce que tu dis, hey, un petit gars de chez nous qui est au niveau international, c'est marqué la ville, puis c'est juste à côté où est-ce que j'habitais. C'est charmant, ça, mais je vais pas prendre cet athlète-là ou prendre le talent de cet athlète-là et jouer un jeu politique pour ça. Ça, je veux dire, entre toi puis moi, qu'on parle, hey, les Québécois sont pas mal bons, moi, il n'y a rien d'honteux à dire ça. Moi, je suis fière qu'il y ait tant d'athlètes dans la région au Québec qui performent, mais ces jeunes-là, ils performent sous le drapeau canadien. Ils ne performent pas sous le drapeau québécois. Puis
je comprends tout ça. Je comprends à 100%, OK? C'est le Canada, puis bon, je la comprends la game. Je te dis, au niveau individuel, tu viens de me faire allumer en plus. Moi, là, je vis aux États-Unis, ouais, je vis aux États-Unis.
Mm-hmm.
Je vis au Texas. Mm-hmm. Je vis pas aux États-Unis. Parce que moi, puis un Californien, là...
Non, c'est vrai.
C'est deux mondes. Tu comprends-tu? Tu sais, je la comprends la game, parce que... Bon, oui, j'habite aux États-Unis. Bon, oui... je comprends. Mais viens pas me comparer avec un Californien. J'aime pas ça. Parle-moi du Texas. Puis, tu sais, encore là, il y a des mouvements de que le Texas, ils veulent se séparer du reste des États-Unis. Puis, en quelque sorte, je suis là, ben, je comprends. Je comprends parce que c'est une toute autre mentalité, c'est une toute autre culture. Puis là, ça n'a rien à voir avec la langue. Bon, OK. Des fois, quand t'entends parler un Texan, on dirait qu'il parle d'une autre langue.
C'est vrai.
Tu sais, puis ici, les gens, ils disent, moi, je parle pas anglais, je parle texan, tu sais. Mais c'est le même phénomène. Fait que ça, là, j'ai jamais. Comment je peux te dire? J'ai jamais dit que. Tu sais, qu'on disait que le Québec, c'est une société distincte. Bon, en fait.
On n'a pas besoin d'une loi pour savoir ça. On sait que
exactement. C'est distinct. C'est différent. Évident.
Même, je veux dire, n'importe qui connaît un petit peu l'histoire du Canada sait très bien qu'il y a une distinction entre le Québec et le reste du Canada. Mais là, c'est parce que, justement, comme je te disais, ça devient saoulant. Moi, c'est l'expression. Je dis, ça devient emmerdant de toujours entendre la même chose.
Ben, c'est parce que ce qu'ils veulent faire, ils veulent. OK, c'est beau, t'es bon, c'est correct. On peut-tu voir à quel point t'es bon? Tu sais, on peut-tu avoir une idée de qu'est-ce que t'es capable de faire? Puis arrête de chialer. Tu sais, parce que c'est ça le problème. C'est que d'un côté, t'as les Québécois, les indépendantistes, ceux qui veulent se séparer, puis tout ça. Puis moi je suis pas Canadien, moi, je suis Québécois. Puis tu regardes économiquement parlant, tu regardes tout ce qui se passe au Québec, comment ça va pas bien, comment tout le monde chiale, comment. Puis tu te rends compte que, ben finalement, là, ben si t'es si bon que ça, là, ben prouve-le.
Ben, ça, c'est mon point. Avant d'enchaîner au prochain sujet, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand les gens me demandent si je suis une séparatiste ou une fédéraliste ou quelque chose, cette étiquette-là, je l'ai déjà eue, je ne l'ai plus maintenant. Moi, je me considère libertarienne. Puis libertarien, c'est un mouvement qui peut progresser, aller dans une direction ou une autre. Moi, ce que je dis toujours, j'ai le Québec. Lorsqu'il sera capable de prouver qu'il est économiquement, socialement et... Tu sais, je veux dire, politiquement parlant, indépendant, qu'il est mature, il est capable d'être une entité unique, là, d'être un pays, moi, j'aurais aucun problème avec ça.
Exact.
Moi, ce que j'ai le problème en ce moment, c'est que t'as encore ce discours-là, puis ça vient souvent de la génération des boomers, puis je veux pas mettre tout le monde, parce qu'il y en a qui vont me dire « Hey, je suis un boomer, puis je suis fédéraliste, whatever », mais je connais certaines personnes dans ma famille qui sont excessivement sensibles sur ce sujet-là, mais quand tu leur parles d'économie, ils disent « Ah, c'est le fédéraliste qui nous vole la péréquation, qu'est-ce que vous en faites? » Non, 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 on l'aurait pas besoin si on était indépendant. Puis cet argument-là ne tient pas debout. Vous voulez pays indépendant, comme le Texas veut devenir indépendant. Demain matin, il est indépendant, il va être indépendant. Il est déjà indépendant, le Texas. C'est capable d'agir. Et ça, c'est la crainte des États-Unis. C'est que des États forts comme le Texas qui demandent la sécession, ils vont être capables parce qu'eux, ils vont rien perdre. C'est le reste du pays qui va perdre si le Texas s'en va.
Le Texas n'a pas de dette, là, je veux dire. C'est très différent.
Demain matin, le Québec se sépare. Puis moi, ma peur pour le Québec, c'est qu'il ne se sépare pas, c'est qu'on le foute à la porte, que le reste du Canada dise « Savez-vous, on est tanné dehors. » Puis ça, quand ça va arriver, ça va être comme un adolescent qui a passé, même pas, un gars de 30 ans qui a passé toute sa vie dans le sous-sol de chez ses parents, qui s'est fait vivre par ses parents, mais qui a toujours chialé sur ses parents parce que ses parents sont contrôlants, puis ses parents sont aussi, puis sont... Puis là, demain matin, le père puis la mère va dire « Hey, mon grand, prends tes clics, tes claques, va te trouver une job, fais ta vie. » Il va se ramasser dehors, puis il va faire comme « Wow, qu'est-ce qui arrive maintenant? » Puis, il risque d'en manger une sincère. Moi, c'est le même que je vois, là. Fait que ce discours-là de fédéral, provincial, indépendance, moi, j'embarque plus là-dedans parce que pour moi, ça a aucune signification. Mais là, je l'ai enchaîné, c'est quoi? Parce que c'est court. C'est quoi tu voulais dire? Il y avait une autre chose, un autre sujet tu voulais discuter.
Ben, en fait, c'est que, tu sais, la semaine passée, on parlait encore de tout ça. On parlait du froid, les tempêtes de froid, la glace, les tempêtes de glace aux États-Unis. Il y en a une autre qui est arrivée cette semaine dans le sud des États-Unis. Puis là, bon, je veux pas qu'on parle de la tempête en soi, sauf que je veux qu'on parle de la préparation quand ça arrive des trucs comme ça, mm-hmm. tu sais, là, on dit que les la Croix-Rouge doit se rendre sur place, puis ça doit offrir des services. Bon, c'est bien beau la Croix-Rouge, c'est le fun. Bon, la Croix-Rouge, faut qu'elle se déplace. Mais c'est pas instantané.
C'est pas Obama qui avait déclaré l'état. C'est dans le coin de la Géorgie, hein. C'est encore.
Ouais, c'est ça.
C'est l'état d'urgence.
Ouais.
Ça a été fait mardi. Fait que c'est vrai, là, tout de suite, quand il arrive une situation comme ça. Moi, je l'ai vécu avec Katrina. Je reviens souvent avec mon exemple, Katrina, mais c'est ce qui m'a le plus marqué.
Ben, moi, c'est Ike. C'est ça, oui. on l'a tous vécu. Puis quand j'étais au Québec, tu te rappelles, la crise du verglas, exactement. Donc, c'est là, je l'ai vécu. Donc, ça arrive. C'est pas quelque chose qui arrivera pas. Et là, les gens vont traiter ceux qui vont se préparer de prepper, puis bon, tu penses que la fin du monde va arriver, ben non. En fait, c'est d'être prêt. La plupart des gens ne sont même pas prêts à affronter n'importe quelle tempête, n'importe quoi qui arriverait. Ils sont même pas capables de manger pendant plus de 2 jours.
Exact. C'est ça que j'avais lu, moi. Il parlait dans les grandes métropoles, un peu Montréal, New York, il parlait même Atlanta, tout ça. En moyenne, les gens qui vivent dans les grandes métropoles, c'est peut-être parce que le fait qu'ils vivent en appartement ou quoi que ce soit, mais ils ont même pas plus que 2 jours de survie d'eau potable ou quoi que ce soit dans leur réserve. Il y en a qui n'ont pas du tout de réserve. C'est assez, je sais pas, moi, ça me fait peur là, quand t'entends ça. C'est stupéfiant parce que, à quelque part, qu'est-ce qui arrive si jamais on a une autre crise du verglas au Québec? Moi, je me rappelle Montréal dans le noir, là. J'habitais sur la rive sud de Montréal et on avait commencé à avoir du courant un peu avant l'île de Montréal. C'était noir, noir, noir. Les gens, là, il y en a qui c'était la panique générale, il y en a qui n'avaient pas leurs médicaments, il y en a qui n'avaient pas à manger, ils avaient tout perdu. C'était l'enfer, là. Puis j'ai vécu la même chose avec Katrina. Les gens, c'était incroyable. Puis la première chose qu'ils demandent sur Virdemont, c'est où est le gouvernement pour nous aider?
Ben exactement, c'est parce que c'est là que tu t'aperçois, parce que tu sais, on prend tout pour acquis dans notre vie. Tout ce qu'on fait, là, tous les jours, on le prend pour acquis. Ça peut pas disparaître, c'est là. Donc, si à l'instant il arrive quelque chose, une explosion quelconque, ok? Bon, parce que la météo en général, on est capable de prévoir au moins quelques heures d'avance, ok? S'il arrive une explosion dont on n'avait vraiment pas prévu, comment vous faites si votre cellulaire fonctionne pas, si votre téléphone ne fonctionne pas, pour rapatrier les membres de votre famille? Qu'est-ce que vous faites? Si vous pouvez plus, parce que, bon, quand est arrivé Ike, toi, Katrina, tu vas dans les magasins, dans les épiceries, tu es sûrement déjà allé, puis les tablettes sont vides. Qu'est-ce que tu fais? Sérieusement, qu'est-ce que tu fais?
C'est très inquiétant. Je te jure, moi, pour avoir vécu ça, là.
T'arrives à l'épicerie, puis dans le fond, t'es pas... Puis en plus, parce que t'as une file dehors, t'as attendu pendant longtemps, mais t'es pas en arrière de la file, t'es dans le milieu, à peu près dans le milieu, t'attends avec tes enfants, grosse chaleur, t'arrives en dedans, il y a pas d'air climatisé, il y a plein de choses qui a déjà péri parce qu'il y a pas d'électricité, donc tout ce qui était dans les frigos, t'as pas le droit de consommer ça. Ce qui te reste, c'est la section des cannes de conserve, c'est la section de tout ce qui est denrées non périssables, mais il n'y a plus rien. Tu es obligé d'acheter les choses. Écoute, il y a des gens qui achetaient de la bouffe pour les animaux parce qu'il n'y avait pas rien d'autre.
Oui, j'avais vu ça, moi. Mais regarde, puis surtout, c'est l'espèce de phénomène de peur. Moi, je me rappelle qu'en revenant de Katrina, quand on a eu le droit de rentrer finalement dans la ville, pendant presque 2 mois, on a eu l'armée qui était au port de toutes les Walmart puis les centres, les marchés. Puis c'était pas juste un petit bonhomme, c'était le tank. Il y avait vraiment, t'avais l'esprit d'être dans une espèce de c'est comme la guerre, la guerre civile, là. Puis là, t'avais le gros soldat avec sa grosse espèce de mitraillette ou quoi que ce soit, là, qui était il y en avait 2-3 à côté. Puis là, c'est les gens à la file, là. Ça faisait vraiment comme une espèce de film dans le temps des communistes. Puis là, t'étais limité à X nombre de produits, de denrées périssables ou de ci ou de ça. Mais c'est vrai, les États... Puis Walmart, ça, c'était remarquable. C'était une des compagnies qui a été expéditif. Là, tout de suite, quand il y a eu l'événement, après ça, ils avaient déjà commencé à envoyer des camions pleins de nourriture. Mais c'était juste pour vous pouvoir accéder. C'était pas facile de contrôler. C'était le bordel partout.
Ben ça, c'est si les camions peuvent se rendre. Le problème, c'est que, comme ici, le problème, c'était l'essence. Oui. On n'était pas capable d'avoir accès à l'essence. L'essence n'était pas capable d'arriver jusqu'ici. Donc, les gens ne pouvaient pas voyager, il n'y avait pas d'essence. C'était vraiment... Écoute, les gens faisaient la file, faisaient des files avec leur... comme on appelle ça, les contenants, oui. Là, pour leur... Bon, parce que, bon, à la maison, ils n'étaient pas capables de partir de la maison, il y avait plus de gaz. C'est inquiétant parce que tu te dis que si ces gens-là, ça n'en prend pas beaucoup pour se préparer, là. Tu sais, c'est pas comme toute une histoire, c'est pas un gros investissement à se préparer. La majorité des gens ne le font pas. Non. Mais on n'arriverait pas à des situations comme ça si la plupart des familles avaient au moins une petite réserve, tu sais, pour au moins durer. Puis si on le dit en plus, à chaque fois que c'est la saison ici des ouragans, on envoie un petit document avec disant bon qu'on doit avoir de l'eau, au moins un gallon d'eau par personne par jour.
Oui, exactement.
Pour boire et pour autre chose, la cuisson puis tout ça. Tu sais, nous, on est quand même très préparé, là, je dirais. Sauf que c'est pas d'être des preppers, c'est pas être de penser qu'il y a quelque chose qui va arriver.
Mais c'est être prévisible.
C'est comme une assurance. C'est une assurance.
C'est d'être prévisible avant tout, là. Puis.
Ben, ouais. Ben, prévisible. Sérieux, là, c'est du gros bon sens.
Oui, oui.
C'est comme si. C'est parce que on va se prendre des assurances pour à peu près n'importe quoi, mais on n'a même pas d'assurance pour la bouffe. On s'entend là que la nourriture, c'est pas mal
c'est
pas mal essentiel, c'est exactement, c'est la base. Puis on n'a même pas d'assurance pour ça. La plupart des gens ont même pas assez de bouffe. Puis bon, un congélateur, c'est beau là. Pas d'électricité, ça dégèle vite.
Mais tu sais, nous, ce qu'on a fait, en fait, moi, c'est un investissement que mon mari a voulu faire nous, ce qui est arrivé, c'est suite à Katrina, ça a été une claque. Parce que on a été très chanceux dans notre malchance. Nous, on n'a rien... À part, c'est vrai, là, le frigidaire, tout ça, tout était perdu, mais on n'a pas été dans les plus affectés, là. On a été capable, la maison était intacte et quoi que ce soit, puis on avait toujours une forme de support, on n'a pas manqué quoi que ce soit. Moi, je travaillais à l'extérieur de la ville, j'étais à trois quarts d'heure de la ville, plus, ils appellent ça « down the bayou », dans le sud de puis ça avait été beaucoup moins affecté. Fait que moi, je faisais mon marché là-bas, il n'y avait pas de pénurie, puis j'en revenais ça à la maison. Mais nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est d'investir dans des aliments sèches. Puis les compagnies, mm-hmm. là, nous aussi, il y a eFood.com, il y a plein de compagnies qui ont poussé comme des pissenlits, là. C'est incroyable. Tu vas sur Internet, eFood.com, tu as plein d'affaires. Au Québec,
la nourriture qui est séchée,
pas déshydraté, je sais pas, c'est en poudre. C'est ça. C'est vraiment, c'est de la nourriture. C'est une forme.
En anglais, on dit dried freeze, mais je sais pas c'est quoi le terme français, mais c'est vraiment des aliments qui se conservent même jusqu'à 25 ans. Exact. Donc, c'est pas quelque chose. Puis, je te dirais, j'en avais acheté des fruits, c'était des mangues, je crois. Il m'en reste plus.
Non, mais
c'est vraiment bon.
C'est bon, c'est ça. C'est pas, OK, c'est pas de la gastronomie dans le sens que c'est frais, 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 puis c'est pas un... Mais quand même, c'est mieux que du macaroni and cheese, là, tu sais, de Kraft. Il y a une qualité. Et la seule chose que tu as besoin, c'est une casserole, une plaque chauffante, des petits brûlants. Nous, on achète des brûleurs, des choses comme ça, et de l'eau. Et en fait, c'est de la bouffe à camping. Nous, on s'en servait quand on va faire du camping. Et on a décidé de faire ça justement pour prévenir. Puis l'avantage, c'est que ça vient comme dans des espèces de caissons. Puis tu peux mettre ça, faut que ça se reste à la température. Faut pas que tu sois dans les températures extrêmes, surtout pas trop chaud. Mais même encore, ils disent que si ça va dans quand c'est dans des températures extrêmes, c'est encore bon, sauf que ça réduit la longévité du produit. Mais écoute, on parle de 25 ans, là.
Exact. Puis tu peux avoir n'importe quoi. Tu peux avoir du beurre en poudre, tu peux avoir du lait, tu peux avoir les fruits, des légumes, de la viande, tu peux avoir du riz. Bon, il y a plein de choses comme ça que tu peux t'acheter. Donc, je vous dis, si vous êtes libertarien, si vous vous considérez comme libertarien, puis que vous attendez que vous attendez après le gouvernement, s'il arrive quelque chose, ben,
c'est
ça marche pas.
T'es pas très libertarien.
T'es pas très libertarien, ça marche pas. Donc, essayez, tu sais, juste, c'est pas un gros investissement. À chaque semaine, vous achetez un truc, vous faites un petit, puis l'eau aussi, c'est très important. L'eau, c'est très difficile à conserver. Bon, ça dépend où est-ce que vous êtes. Il y a plusieurs façons de le faire en cas d'urgence, mais c'est vraiment un problème. Si vous êtes plus au nord, donc au Québec, si c'est l'hiver, ben vous pouvez faire fondre la neige, puis tout ça. Il y a des façons de le faire. Et ici dans le sud, c'est vraiment le problème numéro un, parce que surtout lors des sécheresses, nous ici on en a eu des grosses sécheresses, donc on peut pas vraiment collecter l'eau de pluie puis tout ça. Donc il faut vraiment avoir une réserve d'eau, parce que c'est assez nécessaire. Merci.
Puis l'autre chose qu'on a acquis, nous autres, c'est justement, tu parles des réserves d'eau, c'est d'être les gros bacs que tu mets proche de la gouttière, et c'est un système. Oui. Ça peut durer un certain temps. Sauf c'est sûr que, préférablement, tu parlais de la neige, c'est d'avoir un filtreur. Et maintenant, il y a des filtreurs à eau qui sont portatifs. Puis c'est génial, là. Je veux dire, en l'espace de quelques heures, tu peux te ramasser. C'est sûr qu'il va, en état de crise, en état de situation d'urgence, tu ne pourras pas consommer de la même façon que tu consommes quotidiennement. Mais c'est juste une question de survie. Puis on avait parlé même justement avec Vic, là.
Vic, le survivaliste, oui. Ouais.
Puis ça, moi, ça me fait rire, parce que quand on parle de ça, les gens ont tendance à nous regarder avec un clin d'œil puis dire, ah, regarde l'autre, là, la prepper ou la bizarre.
Conspirationniste.
Mais c'est, il faut avoir vécu ça. Puis je pense que plusieurs gens dans la région de Montréal qui ont vécu ça, l'histoire de la crise du verglas, ça devrait être un souvenir qui vous revient à la mémoire, puis peut-être vous faire comprendre que oui, demain matin, le système tombe comme ça, ben on est mal pris. Il faut être capable de se retirer. Parce que moi, je l'ai vu dans plusieurs images quand tu regardes CNN, des gens là, puis ils sont désespérés, ils sont en pleurs. Où est le gouvernement? Ici, tu as l'agence FEMA. Où est FEMA pour nous aider? On est en train de mourir. Mon mari est malade. Ta. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour vous préparer? Si vous êtes préparé, puis il y a quelque chose de catastrophique qui arrive, puis vous avez besoin d'assistance, ben oui, vous en avez besoin, mais généralement, c'est une forme de négligence qui était faite. C'est les gens se disent, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va être.
C'est vrai, c'est de la grosse négligence. Puis tu sais, si tu vois, si quelqu'un vraiment s'est préparé, puis pour une raison quelconque, ça n'a pas fonctionné son truc. Ben, je sais pas, moi, sa maison, sa nourriture, c'est dans sa maison brûle, je sais pas, tu sais, une catastrophe qui arrive, je sais pas. Ben, en voyant que t'as tout fait ça, les gens vont beaucoup plus vouloir t'aider, tu sais, la charité des autres va arriver. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un, tu te dis, mon Dieu, qu'il s'est pas aidé, lui, dans la vie, hein. Ah, t'as plus de difficultés à dire, bon, ben, garde, viens chez moi, je vais te nourrir, pis tout ça. Tu sais, il y a vraiment, je pense que c'est une responsabilité de tous et chacun de subvenir à ses besoins, puis de prévoir que ça se peut que demain matin, tout ce que tu penses que tu as, tes systèmes de communication, l'essence pour mettre dans ta voiture, ça peut disparaître. La bouffe que tu manges, ça peut disparaître.
Oui.
L'eau, l'électricité, des choses qui sont vraiment essentielles, tout ça, ça peut disparaître. Fait que de prévoir au moins, sérieusement, je vous dirais 2 semaines. Tu sais, c'est le fun, hein, parce que tu dis, tout le monde est là, puis essaie de se trouver des choses, puis ils sont tous, tu sais, il arrive une catastrophe, puis tout est chez toi, tu sais, tu te souhaites, puis tu prends une bière, parce que toi, t'es
parce
prêt.
Parce que même la semaine passée, on l'a vécu, je suis allée à 5 minutes de chez nous, le centre d'achat, la veille d'une tempête, c'est l'enfer. Juste le fait d'attendre pour payer, t'attends pendant 1h30 de temps. Je l'ai fait parce que j'ai été mal pris, puis on habite dans un petit appartement, puis je me dis, merde, que j'aurais dû y aller. Puis maintenant, quand j'entends justement une dépression quelconque au point de vue climatique, ben là, regarde, je vais mettre 2-3 jours d'avance. Parce que les gens...
Ben nous, c'est dès qu'on voit un ouragan quelque part dans le golfe, on va chercher de l'eau, parce que c'est la première chose qui disparaît. Hein. L'eau disparaît. Puis tu peux pas garder de l'eau très, très longtemps, parce que dans des contenants, puis tout ça, tu peux garder, oui, mais pas très, très, très longtemps. Donc, c'est la première chose qu'on fait. On va s'acheter des choses comme ça, ou des jerky, parce que c'est une source de protéines qui dure longtemps. Donc, mais bon. Fait que, donc, allez vous préparer, soyez prêts pour une éventuelle catastrophe.
Ben oui, on revient dans 5 minutes. Texan, il y a quelque chose que j'ai remarqué cette semaine et c'est en lien avec les Jeux olympiques. Je pense que c'est une forme de manifestation contre la politique russe. Le cher président Poutine qui s'oppose aux homosexuels, qui a une politique assez, assez sévère envers l'homosexualité.
Ouais, ben en fait, moi, je pense pas qu'il se... qui s'oppose à la sexualité en soi. Je sais pas, il s'oppose plus à la propagande homosexuelle.
Ouais, mais on va s'entendre que pour... Vois-tu, c'est pas ça. Puis je veux pas aller dans une direction qui vont me dire « Ah, oh, l'homophobie! Blablabla. » Mais c'est comme par hasard, en plein Jeux olympiques en Russie, où est-ce qu'on a un président russe qui participe à plusieurs... Moi, je l'ai vu plein de fois là, dans les activités. Il y a plusieurs nations à travers le monde qui ont décidé de manifester, des métropoles qui ont décidé d'afficher leurs couleurs en mettant, comme à Québec, entre autres, à l'Assemblée nationale, ont décidé de mettre le drapeau gay à côté du fleur de lys. Est-ce que t'as entendu ça?
Non, mais c'est-tu fait, ça, là?
Ben, mardi, ils parlaient de le faire, ou mardi, mercredi. Alors, moi, je pense que ça a été fait, oui. Et le but ultime, c'était justement de faire valoir...
Ça n'a pas de sens.
Puis c'est...
Non, mais c'est... Non, mais j'ai pas rien... Okay. Faut toujours faire l'espèce de petit speech avant, là.
Bon, tu n'es pas
je n'ai rien. Non, c'est ça, exactement. Je ne suis pas homophobe. J'ai aucun problème contre l'homosexualité. Bon, je le jure, blablabla. Sauf que... Minute, là, y a-tu un drapeau du féministe, là, puis après ça, on va être obligé de le mettre à côté, puis là, après ça, y a un autre groupe, les aveugles, tiens, ah ouais, let's go, les aveugles, ben, les hétérosexuels, pourquoi on n'aurait pas à, pourquoi, ouais. Sérieusement, j'aurais pas à mon propre, je sais pas de quoi, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air,
Un drapeau d'hétérosexuels, je sais pas, une
main. Ils ont toutes pris couleur.
C'est la même, ou... Non, mais, on, OK, puis je veux pas non plus qu'on fasse une risée de ça, parce que y a certainement des gens qui nous écoutent, qui sont homosexuels.
Ça, ben oui, mais je suis... Ben, ils ont le droit. Puis je suis contente qu'ils nous écoutent. Puis aucun problème avec ça. Est-ce que tu penses... Ça me fait rire, OK? Puis regarde, c'est juste une petite mini-parenthèse.
Oui.
J'ai une amie ici qui travaille pour une compagnie, une grosse compagnie, Shell. Donc, tu sais, c'est quand même assez gros. Et ils ont une politique. Là-bas, si tu peux, mettons, tu as tous des bureaux là, séparés. Sur ton bureau... Pour montrer que tu es homosexuel, tu as un drapeau. Donc, tu mets ton drapeau. Donc, les gens savent que tu es homosexuel. En quoi ça a rapport sur un lieu de travail?
Bon, ben c'est moi, c'est là le délire. Le délire, là, parce que moi, avec la politique de Poutine, j'en viens avec les Jeux olympiques et Poutine et tout ça, moi, avant tout, la première chose que je vois, c'est que il a un jugement qui va à l'entrave des droits de l'homme. Ça n'a rien à voir, ou les droits humains, OK? Parce que là, quand je dis les droits de l'homme, c'est juste d'abord, whatever. Les droits humains, c'est qu'il manque d'un respect fondamental envers des gens qui sont une relation peut-être qui sort de la norme, parce que la norme, c'est l'hétérosexualité. Je veux pas non plus rentrer dans le débat, dire normalité, oui. Pas normal, anormal, non, non. Whatever. Mais tu comprends que c'est la majorité est hétérosexuelle et 10% de la population, ou un peu moins, est homosexuelle. Et là, on a décidé d'en faire un cas unique. Moi, je me suis fait ramasser il y a pas longtemps sur Facebook avec un gars, justement, qui montrait des manifestants en Russie avec leur drapeau homosexuel ou quoi que ce soit. Puis moi, j'ai dit, est-ce qu'il y a moyen juste d'avoir des Jeux olympiques? Puis là, ah, oh, t'as pas de cœur, des gens qui se font martyriser, tout ça. Puis moi, mon point, c'est, moi, je suis contre tout acte de martyr. Moi, je m'oppose à toute forme de violence envers les humains. Que tu sois blanc, noir, jaune, vert, homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, maison, sors-les toutes. Moi, là, je ne conçois pas, je suis pas capable de voir pourquoi on s'attaquerait à ces gens-là à cause de leurs attributs. OK? Et la dame qui te parle avec son petit drapeau, c'est comme si... elle fallait qu'elle prouve qu'elle était différente des autres et elle avait un privilège différent des autres parce qu'elle, elle a cet attribut-là. C'est un peu comme quand on parle de Barack Obama, puis souvent je le sors, cet exemple-là. Moindrement qu'on critique ce président-là, parce qu'on le critique, c'est qu'on est raciste, moi, je suis plus capable d'embarquer ça. Parce que Barack Obama aurait été, puis en passant, il est moitié blanc, moitié noir. Si on avait mis un Barack Obama blanc, on n'aurait jamais sorti cette carte-là, Mais parce qu'il est noir, maintenant, on peut sortir ça. Puis si jamais on avait une présidente blanche ou une présidente noire ou quoi que ce soit, ben on serait raciste, sexiste, toutes les gens.
Sexiste, c'est ça. Là, ça serait le sexe.
Puis tu comprends que, pour moi, là, c'est tellement incohérent. C'est une incohérence. C'est comme si, justement, moi, souvent, je dis ça, c'est la minorité visible qui est criante et la majorité invisible.
Mais tu sais quoi, ça me fait penser... Oui, puis tu sais, c'est comme si... C'est comme un acte de victimisation en premier. Tu sais, donc tu dis, avant même que je te parle, avant même que je te dise quoi que ce soit, je veux te dire tout d'abord
que je suis...
homosexuel. Bon, c'est sûr, pour les Noirs, c'est un petit peu...
c'est vrai. C'est comme s'il voulait afficher, regarde qu'est-ce que je suis, puis par rapport à ce que je suis, et je dis même pas que c'est l'individu qui veut ça, c'est comme la société, c'est comme si on poussait les gens, parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui veulent pas s'afficher ouvertement, qui vont avoir une relation épanouie avec leur conjoint, mais qui veulent pas l'afficher. Oui. Tu sais, des fois, tu peux avoir des signes, tu vas dire, bon, ben c'est comme évident, mais il y a des gens qui sont discrets dans leur relation, comme il y a des hétérosexuels qui sont discrets dans leur relation, puis ils veulent pas crier haut et fort qu'est-ce qu'ils sont, et... on dirait que la société pousse ces gens-là à s'afficher.
Exact. On veut qu'ils sortent. Oh oui, faut que tu t'affiches, faut que tu t'affirmes, faut que tu... Ben, écoute, moi, je suis qu'est-ce que je suis. J'ai pas besoin de le crier sur tous les toits. J'ai pas besoin de te faire un communiqué de presse pour dire à tout le monde, écoute, moi, c'est ça qui est ça. Tu sais, est-ce que ça peut passer? Comme je t'ai dit, j'ai absolument aucun problème. Tu me dirais, bon... je te l'ai jamais dit, mais je suis homosexuelle. Ça changerait absolument rien dans ma vie. Sérieusement, je vais continuer de te parler de la même façon. Je vais aborder les mêmes sujets. Ça change rien. Mais la façon que quelqu'un arrive, tu la rencontres pour la première fois, puis elle va te sortir. Elle va te, je sais pas, moi, tu vas avoir un, elle va avoir, je sais pas, moi, une sacoche arc-en-ciel. Je sais pas. Sauf que tu le vois de suite. Tu te dis, ouais. Tu sais, c'est vraiment de se donner une justification avant tout, tu vas dire à la personne, écoute, c'est comme, quand on était adolescent, t'arrivais dans un groupe d'amis, puis tu disais, je le sais, là, j'ai un gros bouton d'en face.
Puis tu sautes d'en face.
Puis là, tu l'avais pas remarqué, mais là, depuis quand t'as le dit, c'est tu ça. Dis, ouais, il est gros, hein?
Mais la cause est semblable pour le féministe, en fait, là. C'est ça que je remarque aussi, parce que, regarde, comme moi, j'ai toujours dit, moi, je suis une femme, je suis fière d'être une femme, j'aime les droits qu'on a acquis en tant que femme, pas parce que, pas parce qu'on a un vagin puis deux seins puis tout ça, mais c'est juste, il y a une évolution qui a été faite où est-ce que maintenant, au point de vue social, on a des égalités qui ont été faites entre hommes et femmes. Maintenant, il n'y a plus de discrimination parce que je suis une femme ou un homme. J'ai l'impression, moi, je sens pas de discrimination parce que je suis une femme. Je l'ai pas senti.
Non plus.
C'est ça. Mais moi, c'est comme si je commençais une conversation, puis la première chose, je dis, oui, moi, en tant que féministe, blablabla. Puis là, tu
sais... Ouais, mais moi, je suis une femme. Non, mais c'est comme si tu dis, ouais, mais je suis une femme, puis là, tu vas jaser, tu vas dire, je suis une femme.
Il y en a qui sont comme ça. Moi, j'ai des copines qui s'affichent féministes, qui sont très fières de l'être, et elles, écoute, ils sont même pas gênés de me dire qu'ils ont voté pour Pauline Marois parce qu'elle est une femme. J'ai des copines américaines qui m'ont dit que si Hillary Clinton se présentait, peu importe sa politique, ils allaient voter pour elle. Vois-tu, ces genres de choses, puis je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui fait que vous avez ce raisonnement-là? Il y a quelque chose à quelque part, vous avez manqué. Moi, c'est
on dirait que c'est le... Tu sais, il y a des gens qui aiment ça, c'est ça, la victimisation, donc qui vont comme se trouver des raisons. Puis ça, la minorité, c'est souvent une raison, ça va justifier le pourquoi t'as peut-être moins de succès, on est tous en minorité quelque part dans le fond. Oui, on est tous en minorité dans un... T'sais, bon, je pense pas que... Je suis pas une minorité parce que je suis une femme, parce que bon, je suis peut-être probablement pas en minorité sur la planète, sauf que on a voulu nous faire croire comme étant inférieur à l'homme pendant longtemps. Ouais. J'ai jamais senti ça. Mais on a tous une minorité. Écoute, moi, je suis pas grande. Fait que si j'arrive dans une équipe de basketball, je me fais revirer de bord, ça sera pas long. Là, j'ai bien beau crier, puis écoute, faire faire des plaintes, écoute, ça marche pas, là, tu sais. Donc, je sens que vraiment, c'est encore un problème, ça, les espèces de minorités. Puis, parlant de minorités.
Ouais.
Tu sais, on essayait de nous faire croire que, bon, pauvres femmes, tu sais, au Québec, là, bon, les femmes, elles n'ont pas autant d'opportunités que les hommes, oui. Puis tout ça. On a fait aussi sur les salaires, hein, tu sais, on disait qu'on devait avoir l'égalité salariale, que les femmes étaient, pour le même emploi, payées beaucoup moins. Puis ça fait toute une histoire. Un article qui a été publié mercredi sur... le niveau de scolarité des femmes qui serait en progression au Québec. Bon, c'est pas une surprise, là. C'est pas une surprise, là. Moi, je m'en attendais. C'est juste que là, ça arrive. C'est des chiffres. C'est, oui. C'est officiel. Donc, maintenant, il y a 32 % des femmes en 2012 qui étaient titulaires d'un diplôme universitaire contre 27 % des hommes.
Wow! Moi, je t'ai posé la question ultérieurement, c'est dans quel secteur ils obtiennent ces diplômes-là? Moi, c'est ça ma grande question, parce que souvent, les femmes, malgré le fait qu'on dit il faut que vous soyez au même niveau que les hommes, puis vous ayez l'égalité, tout ça, instinctivement ou naturellement, généralement, les femmes vont toujours dans les mêmes genres de professions. C'est comme moi, je suis allée en communication il y a quelques années, puis je te dirais que 80% des étudiants ou étudiantes étaient des filles. Il y a dans d'autres sections comme l'ingénierie, ben, puis je serais curieuse de savoir c'est quoi les chiffres maintenant, parce que moi, à l'époque j'étais, c'était encore majoritairement des jeunes hommes qui allaient dans ces genres de spécialisation. Est-ce que c'est encore le cas? Parce que c'est bien beau de dire les femmes ont plus de diplômes, mais qu'est-ce que ça vaut leur diplôme? Parce que je veux pas les insulter, mais maintenant, les diplômes universitaires ont plus la même
non, ça n'a pas la même valeur. Surtout avec tout ce que les trucs, la gratuité scolaire, puis ouais. Tout ça, tu sais, ça a fait tout un, ça l'a amené, tu sais. Moi, je me rappelle, dans le temps, je connaissais plein de personnes qui avaient été au cégep, je sais pas, trois fois pour faire, trois diplômes complètement différents, payés par les prêts et bourses, et, écoute, j'en ai vraiment vu. Sauf que là, ce qu'on dit aussi, c'est que, mettons, si tu regardes le contraire, il y a 12 % des femmes qui ont pas de diplôme d'études secondaires. Donc, okay. Vraiment, là, c'est assez basic, là, le diplôme d'études secondaires, comparativement à 15 % des hommes.
Fait que même les jeunes hommes ont moins de diplômes. En général, ça veut dire que les hommes sont beaucoup moins... ont beaucoup moins
de scolarisation.
Mais vois-tu, moi, c'est une chose, puis ça me fascine, ça fait très longtemps que je regarde ça, là. Moi, ce que je remarque, c'est que la société québécoise, elle s'est grandement féminisée au cours des années. Puis on dirait que le système d'éducation, c'est souvent là que ça commence, a souvent poussé a poussé une orientation qui était plus apte à plaire aux femmes. Pourquoi on parle souvent du taux de décrochage est plus élevé chez les garçons que chez les jeunes femmes? Puis ça, il me semble, c'est toute une corrélation. Parce que c'est comme si l'enfant qui commence à l'école, le jeune garçon qui commence à l'école primaire, dès le départ, on le met dans un contexte qui est beaucoup plus favorable à l'apprentissage chez les femmes que chez les hommes. Puis, il me semble que c'est juste une continuité, là. Tu sais, tu regardes les résultats au point de vue universitaire. Maintenant, je pense même au point de vue de la garderie ou les garderies à 7 $, tout est orienté à des activités qui vont plaire beaucoup plus aux filles qu'aux garçons. Le côté challenge, le côté un peu plus... je sais pas le mot dire, pas agressivité, mais tu sais, c'est comme un enfant garçon a besoin de bouger, a besoin de toucher, puis c'est palpable, c'est très concret. La jeune fille, l'enfant fille, lui va être, elle va être plus portée à créer dans sa tête ou à créer dans ses mots et ses phrases. Et là, maintenant, on a vraiment créé une société féminisée.
Mais non, mais c'est vrai ce que tu dis. Puis en fait, c'est drôle parce que moi j'ai juste des filles, toi t'as juste des garçons. Oui. Fait que j'ai pas vraiment à m'inquiéter de ça. Parce que mes filles vont très bien à l'école, dans le sens que ça fit exactement avec leur personnalité. Il y a pas de, j'ai pas des enfants qui ont besoin énormément, tu sais, d'énergie comme ouais. des petits garçons que je connais. Puis tout ça, tu sais que bon, s'asseoir toute la journée là, faire des travaux sur des feuilles, c'est typiquement féminin. Ouais. Puis je te dis pas que toutes les filles sont comme ça, mais bon, on va généraliser un peu. Puis c'est la même chose. Il y a des petits garçons qui vont très bien aller à l'école, mais souvent c'est les petits garçons ont besoin de physique, de courir. Hein.
Ça, je veux dire, ouais. c'est les attributs, l'éducation, le système éducationnel dans lequel on est maintenant, puis je veux dire, je pense depuis qu'on, nous-mêmes, toi puis moi, on est rentrés dans le système scolaire, c'est grandement, puis moi, je parle toujours de la fameuse castration psychologique, c'est comme si, tu sais, comme je regarde juste des exemples, jouer au ballon chasseur, chose qui était très courante quand j'étais petite, maintenant, c'est rendu un sport interdit.
Oh non, mais c'est exactement ça! Et au coup, on jouait au drapeau, comment ça s'appelait? Oui. On jouait au drapeau, puis au roi de la montagne, oui. Et c'est des jeux ici qui sont maintenant rendus, interdits!
Puis ici, on le voit également, là, il y a des sports, nous, ça s'appelle le four square. Là, ils commencent à vouloir réduire les règles ou quoi que ce soit, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup d'agressivité, mais c'est pas de l'agressivité. Les enfants n'ont plus le droit de courir dans la récréation, des choses. Moi, ce que je fais en tant que parent, c'est que j'ai l'avantage de pouvoir les amener à d'autres activités. Moi, j'ai un garçon qui fait du karaté parce qu'il aime ça, le côté maîtriser les gestes, quoi que ce soit. J'en ai un autre qui fait du baseball. Il y en a un que mon plus jeune fait du soccer. Puis je les lance dans les activités extérieures. Puis c'est demandant, mais c'est ce que je dois faire. Parce que sans ça, ben écoute, l'autre facette qui les fascine, c'est le côté informatique, les ordinateurs, les choses de même. Et ce qu'ils ont été capables d'adapter dans l'école où est-ce que mes garçons vont, c'est des ateliers où est-ce que tu peux aller sur l'ordinateur faire des activités de sciences, de mathématiques et même d'écriture. Et ça les captive plus. Alors, ça encore, bon, ça, je trouve ça bien. Mais comme je te dis autrement, le principe de rester assis pendant X nombre de temps, tranquille, pas bouger, est vraiment un aspect très féminin. Les femmes ont beaucoup plus l'habilité de rester tranquilles parce que ça rentre, c'est dans leur gène. C'est le côté, justement, féminin. Le garçon, si tu regardes dans le passé... les générations de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, eux autres étaient trois quarts du temps à l'extérieur, puis ils allaient s'occuper soit dans les fermes, dans les bois, dans les villes, ils travaillaient dans des manufactures, des choses comme ça. C'était très...
Oui, c'est ça. C'était très physique. Donc oui, il y avait un petit côté scolaire, mais c'était pas c'était pas aussi longtemps. Puis maintenant, tu sais, t'envoies ton enfant, ils envoient les gens vers leurs enfants super tôt à l'école, puis ils vont aller les chercher. Bon, après ça, c'est le service de garde qui embarque.
Oui.
Et donc, ils vont aller les chercher très, tu sais, après. Puis bon, pendant tout ce temps-là, faut qu'ils les tiennent tranquilles. Il y a comme une espèce de, tu vis en groupe, donc faut que tu te contrôles. Donc, ils arrivent à la maison, souvent, ils sont vraiment pas du monde, ou ils attendent pas, puis ils font ça à l'école, puis là, t'as des problèmes. Écoute, j'en connais plein de gens qui ont des petits garçons qui ont ces problèmes-là, oui. de vouloir essayer d'écouter, donner l'heure. Puis c'est toujours des... puis encore là, les professeurs sont toujours féminins, puis ça. Puis on pourrait en rajouter, on pourrait parler du Ritalin, puis ça, mais on n'a pas le temps, Colin!
Moi, c'est ça, non, mais juste te dire, avant de conclure, moi, c'est ça qui m'affole le plus, c'est que la solution, c'est la solution facile, c'est la médicamentation. Thank you! Bon, mais... tu sais, je disais au Québec, 30% des jeunes garçons sont sous médication quelconque pour les calmer. Ça, c'est
là, tu viens d'embarquer sur quelque chose. Sais-tu quoi?
What? Mais on n'a pas le temps, là.
Je le sais, mais oui. Sais-tu qu'est-ce que ça va donner?
Ah, mon Dieu, des hommes.
Sais-tu qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des fous qui vont aller faire quoi? On en parle après la pause.
Fire in a fire representing seven games in a government for hire in a combat site. charge, slash and burn, return. Listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting. Every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watching heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but nap, right? It's the end of the world as we know it.
Bon, hey, on revient sur la discussion qu'on avait auparavant. On parlait des jeunes. Tu disais, là, tu nous laissais sur l'appétit, là, ma chère Texane. Tu disais, les jeunes sont un peu perdus, puis des fois, ils commettent des actes vraiment irrationnels. Mmh. Qu'est-ce qui se passe, là?
Ben, en fait, je veux parler, c'est un événement particulier qui est arrivé cette semaine, mais bon. C'est arrivé dans mon petit patelin à Trois-Rivières, mais ça aurait pu arriver n'importe où, puis ça m'aurait autant touché. C'est rare qu'on entend parler de triple meurtre, premièrement. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on n'est pas à l'abri de ça. Il y a personne qui est à l'abri de ça. Donc, petite histoire pour ceux qui ne le savent pas, hein, ça me surprendrait, mais bon. ça s'est passé à Trois-Rivières, c'est deux jeunes, 16 et 17 ans, OK? C'est fou, là. Ils prennent l'autobus avec des armes de chasse dans des sacs, cachés dans des sacs. Donc, ils vont vraiment prendre l'autobus de ville avec ça. Ils s'en vont à la maison dans une résidence privée du secteur Trois-Rivières-Ouest qui est en fait un secteur qui est, je dirais pas de riche, là, mais tu sais, qui est quand même de gens assez à l'aise et où le maire de Trois-Rivières, en fait, habite aussi. Et il y en a un des deux qui cogne à la porte. L'autre, il est caché pendant ce temps-là. Et là, quand la porte ouvre, c'est là que le carnage commence. Donc, il y a une fille de 17 ans avec son chum de 17 ans aussi qui sont tués par balle. Pendant ce temps-là, il y a la sœur de la fille de 17 ans qui décide de se dépêcher à appeler le 911, qui réussit à appeler le 911, mais qui, pendant qu'elle leur parle, elle se fait aussi tuer, tirer. Et paraît-il que le téléphone de la personne qui était au 911, qui a pris l'appel du 911, entendait tout ce qui s'est passé.
Ça a tout été enregistré.
Pendant et après, exactement. Donc, ils ont une bonne idée. On ne décrit pas exactement ce qui s'est passé, mais on dit qu'ils ont une très bonne idée de de toute l'histoire en arrière de tout ça par l'appel, par l'enregistrement.
Mais en fait, là, je veux revenir à une chose. On parle d'armes à feu. C'est des jeunes qui ont été capables de se procurer des armes à feu, qui avaient ça dans leur maison. Parce que moi, ça me fait rire. Souvent, là, quand on entend des histoires de même aux États-Unis, la première chose qui va arriver dans les médias, surtout gauchistes ou les médias québécois, c'est les armes ont encore été... ou c'est comme les gens ont été encore la cible des armes à feu et tout ça. Québec, c'est pas un endroit, une terre où est-ce que les armes à feu sont excessivement restreintes. Moi, je le comprends pas, celle-là. Qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est des jeunes qui ont été capables de se trouver des armes à feu ou ils en possédaient?
Ben, en fait, de ce qu'on sait, parce que comme je suis privilégiée, non? Parce que ma mère travaille au palais de justice. Mais il y a plein d'informations qui circulent en ce moment. On dit que ce seraient des armes à feu qui était légal, qui était, dans le fond, en la possession du père d'un des deux garçons. Okay. Donc, c'est des armes de chasse.
Okay. Alors, légales, mais qui ont été prises dans... C'est une situation illégale dans le sens qu'ils ont été volés par le jeune. Alors, c'est pas un jeune garçon qui a été capable ultérieurement de se procurer une arme à feu, de l'enregistrer et de faire tous les étapes pour avoir accès à une arme à feu. C'est un jeune qui savait qu'il pouvait se trouver une arme à feu quelque part dans la résidence, puis il s'en est servi. Puis c'est quoi le motif?
Le motif, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'on est tous pas à l'abri. Un des jeunes hommes, OK, était en amour avec la fille de 17 ans. Mais elle, c'était pas réciproque. Et elle avait déjà un chum. Écoute.
Fait qu'ils étaient même pas en relation.
Du tout, exactement. Donc, elle était juste pas intéressée à lui. C'est ce qu'on dit. Elle était pas intéressée à lui. Et donc, lui a décidé. Puis moi, ce que je trouvais bizarre de l'histoire, c'est que, bon, lui, il a agi parce que il était en amour avec elle puis voulait en finir avec elle et son chum. Okay. Mais il a réussi à recruter quelqu'un quand même pour faire ces gestes-là avec lui. Et ce qu'on nous dit à matin, c'est que ce gars-là, l'autre, qui l'a aidé, il aurait accepté de le faire à la condition qu'il le tue par la suite. Donc, il a dit, bon, OK, je vais t'aider, puis après ça, tue-moi.
Ah, mon Dieu!
Puis le but, puis ce qu'on sait aussi, c'est que là, c'est un triple meurtre, mais c'était orchestré et planifié pour être un vrai carnage. Donc, leur but à eux, c'était d'arriver là-bas et de tuer. Okay. La fille, sa sœur et le chum de la fille. La mère, qui était malheureusement pour eux, là, mais heureusement, pas là, était déjà partie pour aller travailler. Et il voulait attendre les policiers et les tirer.
Oh mon Dieu!
Un, par en haut, parce qu'on dit qu'ils ont été capables de défoncer une vitre, puis que dans leur but, c'était d'attendre les policiers.
Et de se faire tuer par les agents, c'est ça? C'était leur but.
Et ils voulaient se suicider. En fait, le but, c'est...
Comment ils appellent ça? J'ai vu ça quelque part. C'est suicide par autorité. C'est l'autorité qui, en fait, met un terme à la vie des gens, mais leur but ultime, c'était de mettre fin à leur vie. Fait qu'ils avaient... Ils étaient trop lâches de se tuer par eux-mêmes, alors ils voulaient prendre un peu comme une personne qui se lance devant un véhicule ou qui se lance dans... Tu sais, il va trouver une alternative pour mettre une fin à sa vie, mais c'est d'autres personnes qui vont commettre l'acte comme tel.
Oh, exact. Puis la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est que, bon, c'est ça, c'est un drame, mais que ce soit n'importe qui meurt, moi, c'est un drame pour moi, mais c'est qu'on n'est vraiment pas à l'abri. Puis dans cette histoire-là, il aurait pu avoir au moins une personne de sauver.
Oui.
OK? Puis là-dedans, je te dis, j'ai lu quelque chose hier, quelqu'un qui écrit dans les médias sociaux un petit texte qui disait que, bon, la fille, au lieu d'appeler le 911, parce que, tu sais, ton 911, c'est par désespoir. Oui. Tu dis, bon, j'appelle le 911, j'ai besoin d'aide, l'aide, elle n'est pas immédiate. Puis là, on parle ici de d'agresseurs avec des armes à feu, mais on peut parler de quelqu'un qui respire plus. On peut, il y a plus, tu sais, il y a plusieurs situations dans lesquelles tu dois appeler le 911 puis que ça presse, c'est là. On a besoin d'aide là. Dans un cas de quelqu'un qui ne respire plus, ben tu peux administrer la réanimation cardio-respiratoire puis tout ça. Mais dans un cas comme celui-ci, t'es tout seul avec toi-même parce que t'as aucune espèce de défense.
Et la personne, en fait, c'est ça, c'est la vulnérabilité. Puis, je veux dire, c'est tu prends le téléphone, t'appelles 911, mais c'est comme, il y a aucune chance de survie, à moins qu'il arrive quelque chose, puis que les gens, les jeunes malfaiteurs décident soudainement de ne plus commettre l'acte. La jeune femme, c'était presque garanti qu'elle allait se faire tuer. Puis en fait, j'ai l'impression que le fait qu'elle ait pris le téléphone, c'était une façon d'alimenter encore plus ces jeunes-là qui sont complètement déboussolés, complètement fous, à commettre l'acte.
Exact. Mais si elle avait eu, en fait, ce qu'elle aurait pu faire, elle aurait pu sauver sa propre vie si elle avait eu une arme à feu, puis si elle avait su comment s'en servir. Oui. Fait que c'est là, moi, je me suis dit, OK, tu ne peux pas empêcher des malfaiteurs comme ça. Puis bon, là, on parle ici de quelqu'un qui arrive avec des armes à feu. Ça aurait pu être quelqu'un qui arrive avec des couteaux.
Ça aurait fait la même chose. Oui.
Ça aurait fait la même chose parce qu'en fait, quelqu'un qui veut tuer...
Il va tuer.
Oui. Oui. OK? Il va trouver une façon de le faire. Donc, il aurait pu arriver avec, je sais pas, tu sais, des espèces de couteaux. Là,
c'est, oui, mais un couteau, Julie, ça meurtrier. Peut prévenir. T'es pas obligé de mourir avec un couteau. C'est pas aussi méchant qu'un pow-pow. Moi, c'est cet argument-là. Là, moi, je suis en train de me foutre de la gueule de certaines personnes, là, parce que c'est vraiment...
Comment il s'appelle Turcotte? Il a tué ses enfants. Comment, donc?
Puis il a voulu se suicider avec du lave-glace, mais c'est à coups de couteaux, des couteaux de cuisine que tu vas trouver n'importe où dans les grandes chaînes, chez Walmart, la Bay et compagnie, tu peux trouver ces couteaux-là. Ce n'est pas le moyen. Écoute,
mais c'est pas un moyen de défense, c'est ça que j'essaie d'amener. C'est un moyen d'agression, OK? Parce que la personne qui a en elle le désir de tuer, elle va trouver un marteau, n'importe quoi, puis elle va arriver à ses fins. La personne qui se défend, écoute, on n'est pas dans le même mindset. On est en... Écoute, c'est... Tu sais pas comment réagir, puis de prendre un couteau, puis d'attaquer quelqu'un qui a un couteau, lui-ci, non. Ça, c'est la personne qui est en avant de toi qui va être capable de le faire. En défense, la seule défense que t'as beau avoir fait des cours de karaté, d'être ceinture noire, c'est ton arme à feu. C'est ta seule défense. C'est le seul moyen de défense qui est égal.
Ah oui, couteau. Dans ce cas-là, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, même si elle avait été ceinture noire, c'était voué à... Elle aurait peut-être pu s'en sortir, les maintenant encore, mais les probabilités étaient très, très faibles. Et d'autant plus que là, ils ont été pris par surprise. Alors, ça, il y a toujours le phénomène tu gèles ou tu fuis, là. C'est vraiment l'instinct naturel. C'est tu gèles ou tu fuis. Il n'y avait aucun mécanisme pour se protéger dans le sens d'aller se lancer dans la cuisine, aller chercher un couteau ou quoi que ce soit, c'était pas instinctif. Puis ça, c'est une autre chose. Les gens qui, comme toi et moi, qui possédons des armes à feu, ce qui arrive, c'est que c'est pas une question qu'on va chercher un arme à feu, puis on met ça dans notre lock, puis that's all, puis quand on va en avoir besoin, on l'utilise. C'est qu'on pratique et on devient de plus en plus comme habitué. C'est pas comme, tu sais, moi dans mon cas, j'ai pas encore un permis de port d'armes, puis on est en train de voir si c'est une chose que je vais décider de faire. Puis je suis encore en période d'adaptation. J'ai un copain, lui, ce qu'il a décidé de faire, et c'est dans son droit, puis quand mon amie, elle, c'est arrivé au début, c'est que lui a décidé tous les soirs, il allait sortir son arme à feu de son locker, puis il le met dans sa table de nuit. Parce qu'il dit, faut que je m'habitue toujours à être prêt, à savoir, parce que si tu t'achètes une arme à feu, mais tu ne te prépares pas psychologiquement ou tu ne te prépares pas même physiquement à pouvoir accéder, ça donne absolument rien. Puis ce que je veux dire, c'est que ces jeunes enfants, ces jeunes adultes, en fait, qui ont été pris dans cette espèce de souricière, parce que c'est vraiment ça qui est arrivé. Eux, il y avait les deux jeunes avaient tout planifié, c'était tout orchestré. Oui. Ils ont été pris par surprise. Et cet élément de surprise-là les a rendus encore plus vulnérables. Puis l'histoire du 911, j'ai aucune idée, là, l'histoire, je l'ai plus ou moins suivie, mais je suis curieuse de savoir combien de temps ça a pris à la police ou à la...
En fait, ce qui est arrivé, c'est que ça arrivait exactement dans le temps où il y a le changement de chiffre.
Oh mon Dieu, c'est encore pire, ça.
Donc, ben oui et non. Ils ont eu énormément de policiers qui étaient sur place, tu comprends? Le monde qui partait, le monde qui arrivait, étaient tous là. Okay. Donc, ils ont été capables d'arriver puis en force, là, je veux dire, ils n'étaient pas juste deux, trois. Puis je pense que ça l'a aidé, sauf que d'une façon ou d'une autre, ça prend combien de temps de tuer quelqu'un? Ça prend quelques secondes seulement. Même si t'appelles le 911 puis que le poste de police est juste ton voisin à côté,
il est trop tard.
Il est trop tard de toute façon. Puis je comprends pas pourquoi parce qu'on est extrêmement vulnérable. Chacun, toi, moi, nos enfants, tout le monde, on l'est. On l'est parce que on doit, pour se défendre, faire appel à quelqu'un à l'extérieur de la situation. C'est complètement fou, là. Tu sais, c'est pour la raison pour laquelle on apprend à faire la réanimation cardio-respiratoire pour la même raison, parce que l'aide, elle arrive, ça prend du temps. Là, on dit, ouais, mais là, la respiration, tu peux pas tuer personne avec ça. L'arme à feu, c'est pas l'arme à feu qui tue.
C'est le geste, c'est le fait de prendre l'arme, c'est le fait que la personne a décidé de commettre l'acte. Et l'acte est fait soit pour se protéger, soit pour protéger, défendre ses biens, ou c'est fait de façon malicieuse pour faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est les trois façons qu'on utilise les armes. Fait que c'est ça le principe. C'est pas dire, puis d'une façon ou d'une autre, moi, toutes les personnes, puis je connais certaines personnes au Québec qui possèdent des armes à feu, elles sont d'une responsabilité incroyable. C'est des gens tellement minutieux, méticuleux. Ils vont jamais... Tu sais, l'argument, là, c'est des rednecks qui laissent traîner leur fusil sur le bord de la table. Ou c'est... Moi, là, des histoires de même, j'en ai rarement entendu de la part de personnes qui étaient moindrement sensées et qui possèdent des armes à feu. Puis, je suis certaine que toi, même, tu avais participé, là, à l'exposition du NRA, là, tu sais, le NRA, là.
Oui, 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 oui.
Les gens que tu rencontres là, c'est vraiment tout à fait différent. C'est une crowd totalement différente de ce qu'on s'imagine, ce que les gauchistes, ce que les gens anti-gun s'imaginent, eux autres.
Ben, en fait, même quand tu vas au champ de tir, oui. Tu sais, la première fois que j'allais au champ de tir pour mon examen, pour passer mon permis de port d'armes, à côté de moi, il y avait une femme enceinte, là, tu sais, je veux dire, c'est tellement pas le genre de truc que tu penses voir, tu sais, tu penses d'arriver là puis ça va être tout des rednecks, mais c'est tellement pas le cas. Puis, mais bon, c'est sûr qu'ici, c'est une mentalité différente, puis c'est dur de faire accepter aux gens, puis même quand je suis arrivée ici, je trouvais ça un peu spécial, tu sais, que tu dis, parce que bon, les gens savaient qu'on arrivait du Canada, ils connaissent un peu les lois qui sont très différentes avec la culture qui est très différente d'ici, donc nos amis nous disaient pas autour d'une table, hey, attends une minute, je vais aller chercher mon gun. Sauf que au fil des temps, quand on a posé des questions, à savoir, regarde, on serait intéressant d'en connaître plus là-dessus, ben là, écoute, ils ont dit, yeah, viens-t'en à mon garde-robe, puis je vais t'en montrer. Puis on s'est rendu compte que...
C'est même pas une question de se vanter non plus.
Mais exactement, c'est ça exactement. Il n'y a personne qui le dit. Les gens ici n'en parlent pas. Si tu leur poses des questions, ils vont répondre, mais c'est pas... Je me rappelle, quand je suis déménagée, mon voisin d'en face me disait, en tout cas, s'il t'arrive de quoi, le voisin d'à côté, mon voisin d'à côté, il a tout le temps un gun dans ses bottes. Puis c'est drôle parce que le gars, il a vraiment des grandes bottes, là, tu sais. Fait que à chaque fois, je le vois dehors, là, OK. Fait que, tu sais, mais je ferais totalement confiance. J'ai vraiment cette je me sens plus safe, puis pas juste parce que je suis capable de me défendre moi-même. Je me sens plus safe parce que je sais que les autres alentour de moi, je leur fais confiance d'utiliser ça pour leur jugement, puis je le sais que s'il m'arrive quelque chose, mon voisin à côté me défendrait. Puis c'est vrai.
Oui, là. Mais tu comprends-tu encore une fois, je veux revenir avec cette histoire vraiment macabre, vraiment triste aussi, que c'est encore le phénomène d'individus qui l'ont vraiment échappé, qui sont déraillés, il y a quelque chose, c'est l'expression, il y a une fuse qui a pété, là. C'est exactement ça. De un, tu me dis le signe avant-coureur, c'est de dire celui qui a accepté était suicidaire. Peut-être que lui, ça faisait déjà là, très longtemps qu'il souffrait d'une souffrance psychologique quelconque. Pour accepter ce genre de négociation, là, d'entente, c'est qu'il veut. Tu sais, ça faisait longtemps qu'il se traitait, puis là, il s'est dit ben, gars, tant qu'à faire, je vais faire ça. Puis l'autre, il devait avoir.
Y a-tu de quoi, sérieusement, y a-tu de quoi de plus dangereux que quelqu'un qui veut se suicider?
Ah, mon Dieu. Oui, parce qu'ils n'ont plus de morale, ils n'ont plus de côté. Moi, j'ai travaillé auprès de gens qui souffraient de dépression, puis souvent, ce qui les empêche de faire l'acte, c'est le courage. Alors, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont peut-être, un peu comme on a connu avec l'histoire de Guy Turcotte, là, c'est qu'ils vont essayer de prendre avec eux les gens qui les entourent. Puis, ils vont essayer de faire souffrir ceux qui ont fait du mal. Fait que, vois-tu, c'est un peu ça. Puis, moi, avant tout, puis souvent, c'est l'argument, là, des gens qui sont pour le deuxième amendement aux États-Unis, puis qui sont pour les armes à feu, ceux que je connais au Canada. C'est avant tout le gros problème, c'est le problème des maladies mentales. Et ça, c'est quelque chose qui est excessivement tabou. On ne veut pas reconnaître. Et ça, il faut le voir. Chaque situation, chaque carnage qu'il y a eu, autant aux États-Unis qu'au Québec, à chaque fois, on faisait affaire avec quelqu'un qui avait un trouble mental. OK? Et à chaque fois, on essaie de savoir qu'est-ce qui est arrivé. On pense juste à ce qui est arrivé il y a 2 ans à Connecticut, là, dans l'école. C'était un jeune autiste, je pense, qui souffrait de schizophrénie.
Non, mais c'est même pas. Ça fait même pas 2 ans. Ça fait un an et deux mois.
C'est vrai. C'est parce que je me trompe tout le temps. C'est en 2012, mais en décembre 2012. C'est un jeune qui souffrait de maladie mentale. On a blâmé sa mère. On a blâmé le fait qu'elle possédait des armes à feu, qu'on lui a mis ça dans les mains. Avant toute chose, moi, je suis curieuse de savoir là, qu'est-ce qui était fait à ce jeune-là au point de vue psychiatrique, au point de vue psychologique. Ces deux jeunes-là qui souffraient, c'est inévitable, ils souffraient de maladies mentales. Pour pouvoir arriver à une idée aussi machiavélique, là, il fallait qu'il y ait un trouble quelconque. Qu'est-ce qui avait été fait comme suivi? Puis je suis pas en train de pointer du doigt les parents ou en train de pointer du doigt les gens qui auraient pu voir ça, mais il faut peut-être vraiment là se retourner de bord puis dire, il est où le problème? Le problème, là, c'est pas les guns. Le problème, non. Parce que si on commence à faire un registre d'armes à feu sur les guns, puis à enregistrer les numéros de série, puis on va revenir avec l'histoire dans quelques minutes, là, je sais que tu as quelque chose là-dessus, à enregistrer toutes les parties, là, puis tout ça, ben il va falloir qu'on finisse par faire un registre des couteaux de cuisine, qu'on fasse un registre des marteaux, qu'on fasse un registre des scies, puis qu'on fasse un registre de tous les produits chimiques qui sont en dessous de mon évier de cuisine, parce que n'importe quoi peut faire. De l'eau, tu peux noyer, tu sais pas, ben justement, là, il y avait une Texane il y a quelques années qui a noyé ses 5 enfants, 5 ou 6 enfants, là.
Oui, noyer.
Pourquoi? On va faire un registre des bains maintenant?
Non, mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, on parle de même, puis ça a l'air complètement ridicule, mais c'est parce que c'est vraiment ça, là. C'est parce qu'on voit, l'arme à feu comme étant un objet seulement pour tuer, mais on le voit jamais de l'autre côté pour s'en servir pour se défendre. On voit jamais ça. Tu sais, on n'a pas cette, ben là, tu sais, je dis, on voit jamais ça. Ici, oui, on le voit, puis c'est clair dans l'esprit des gens que tu peux prendre une arme à feu puis l'amener à être un objet positif ou un objet négatif, tout dépendant de la personne qui va la tenir. Ça, c'est clair. Mais pour des Québécois, même des Européens, ben c'est tout le contraire, là. On voit vraiment l'arme à feu comme étant un outil seulement pour tuer.
Mais pourquoi on pense de même? Moi, c'est ça.
C'est comme c'est des symboles. J'ai l'impression on a vécu vraiment avec ce symbole-là d'avoir peur d'une arme à feu.
Mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce que si j'y pense bien, moi, je me rappelle, mon grand-père avait une carabine. Je me rappelle, là, quand il est décédé, justement, on avait essayé de... Tu sais, brièvement, je l'avais vu, là, quoi que ce soit. À l'époque, mais deux, trois générations en arrière, c'était coutume d'avoir une arme à feu. C'était plus des carabines de chasse, c'était peut-être pas...
Ben, c'est ça, c'était pour la chasse, c'était mais pas vraiment pour la défense.
Mais tu comprends quand même que si... il y a 100 ans, il y avait quelqu'un qui rentrait dans ta maison, ben l'arme de chasse servait aussi d'arme de défense. Tu sais, les rifles, moi, j'ai toujours la misère, les carabines là, qu'on voit maintenant, les noires là, qui ont l'air un peu comme les mitraillettes, là. Il y en a plusieurs qui confondent justement là, les mitraillettes avec les carabines semi-automatiques. Ouais. Ben la plupart, c'est des outils de chasse. Maintenant, on a juste décidé de leur mettre un attribut qui est vraiment connotatif dans le sens, et on dit que c'est des armes d'assaut. Mais c'est pas des armes d'assaut.
Ouais,
armes d'assaut, c'est des armes automatiques, c'est des bazookas, c'est des...
Moi, je dis tout le temps les...
C'est des armes qu'on n'a même pas le droit d'avoir, même aux États-Unis.
Ouais,
les lances-roquettes, c'est quoi? C'est l'autre fois, là, quelqu'un qui était arrivé, vous, avec vos lances-roquettes, whatever. Je dis, c'est où que tu...
Ben oui, on a ça chez nous, on achète ça chez Walmart.
Non, mais arrêtez. La seule chose qui est légale ici, c'est des armes. OK. Et ce qui diffère avec le Canada, c'est les armes, les handguns, les revolvers. Ici, c'est beaucoup plus accessible qu'au Canada. Au Canada, c'est vraiment restrictif. Mais moi, j'arrive avec le poids, puis c'est une transformation de mon père. C'est autant une transformation de ton père, ça je le sais, parce que toutes les deux ont été élevées de la même façon. Je reviens avec mon exemple, j'avais dit il y a quelque temps, là, quand j'étais en histoire des États-Unis, on parlait de la Constitution puis des amendements, qu'on arrivait avec l'argument, le deuxième amendement, 99,999% des étudiants dans la classe disaient, mais c'est quoi la raison d'avoir cet amendement? Ça n'a plus de raison d'exister, on n'est plus en 1700 quelque chose, on est en l'an 2000. Vois-tu, c'est où? Moi, j'essaie de savoir c'est où qu'on va, on est allé, jusqu'à quel point on est rendu maintenant si vulnérable et tellement dépendant.
Oui, on est dépendant. C'est ça, c'est exactement ça. On est dépendant du 911. On est des, tu sais, dans le temps, là, tu pouvais pas appeler le 911. Je veux dire, c'est comme,
Puis, on y a honte, ça veut dire que oui, il fallait que t'ailles droit, t'avais le droit de te protéger. Maintenant, surtout au Canada, si tu utilises ton arme pour te défendre, ben, attache ta tuque parce que tu peux même te faire ramasser pour, acte criminel, accusé d'avoir commis un acte, même si c'était pour te défendre. Je sais qu'en Ontario, justement, il y avait eu un cas où est-ce qu'un homme avait tiré sur des jeunes qui vandalisaient sa maison, puis il s'était ramassé en prison. Mais il avait tous ses droits, puis finalement, ben, le juge a renversé la cause, puis il avait été libéré. Mais tu comprends que...
Non, c'est ça, c'est parce que c'est tellement touché de vouloir se défendre au Québec que la situation arrive, puis tout ce que tu fais, c'est... J'ai pas le droit, je peux pas. Fait que dans le fond, tu veux juste ne pas te salir les mains. Tu vas dire, oh, écoute, moi, j'aime mieux pas faire. Puis dans le fond, tu vas finir par te faire tirer. Mais si c'était, mettons, la mentalité ici, nous sommes protégés par le second amendement, oui, mais aussi au Texas, la Castle Doctrine.
La doctrine du château, ouais, c'est ça, en voulant dire que tu protèges ton territoire. C'est pas juste ta personne.
Ben, exactement. Donc, je ne protège pas juste moi-même, puis les gens que j'aime, mes enfants, puis tout ça, mais je protège ma propriété, mm-hmm. donc mes biens, ma maison, ma voiture et tout ça. Et donc, j'aurais en principe le droit, puis encore là, on me demande d'utiliser mon jugement. Oui. Je trouve ça très bien que mon gouvernement pense que j'en ai encore, parce que souvent, non, mais c'est vrai, parce que tu regardes les Québécois, là, j'ai l'impression que le gouvernement québécois pense que la majorité des Québécois n'ont pas de jugement. Mm-hmm. Et en fait, ils font pas pour qu'il y en ait. Hein. C'est le contraire. On va enseigner, on va... on va scolariser les enfants, les éduquer pour que
qu'ils deviennent dépendants. C'est ça, de bons petits Québécois dépendants du système, parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent recevoir. Tu sais, c'est comme puis c'est vrai qu'on les traite comme des enfants, mais c'est comme un cercle vicieux. Parce qu'on les traite comme des enfants, ils deviennent plus irresponsables, plus ils sont dépendants. Et plus ils sont dépendants, plus le système devient gros puis dit, ben gars, vous voyez, vous faites la preuve, vous n'êtes pas capable de vous prendre en main, ben on va vous prendre encore plus en main. Mais moi, je reviens sur deux points que je reviens. L'un des points, c'est le fait qu'il y a une forme d'hypocrisie. Parce qu'au Québec, on a la preuve là avec l'histoire qui vient d'arriver à Trois-Rivières, les armes à feu, il y en a. Des homicides à armes à feu, il y en a. Et comme on l'a montré en ce moment, 99 % du temps, ça arrive dans des situations où est-ce que l'arme était utilisée de façon illégale. Je dis pas que l'arme...
Ben, elle était utilisée de façon illégale, mais l'arme en soi était légale.
C'est ça le problème. C'est que les armes à feu, où est-ce que quand il y a des homicides, c'est souvent des armes qui ont été volées par des proches ou des gens, les gens savaient où est-ce qu'ils pouvaient en trouver. Ou encore, c'est des armes illégales qui sont soit retrouvées, on va les acheter aux États-Unis puis on trouve une façon de les passer à travers la frontière, ou bien c'est dans les réserves indiennes. Mais il y a une hypocrisie parce qu'il y en a des meurtres à homicide. Puis moi, c'est ça, je cherchais l'autre fois par curiosité.
Des meurtres à armes à feu.
Des homicides à armes à feu. C'est ça, je voulais dire. Parce que j'avais fait une recherche l'autre fois, puis je regardais juste, par exemple, le Vermont. Puis moi, le Vermont, c'est mon exemple parfait concernant les armes à feu, parce que très peu de gens savent. Aux États-Unis, on le sait, mais très peu de gens, je pense, au Québec, sont au courant que le Vermont, c'est un des États où est-ce que c'est le plus libre. Il y a plus de liberté au point de vue. La possession, l'achat et le port d'armes à feu. En fait, il n'y a presque pas de restrictions. Si tu as 17 ans, tu n'as aucun casier judiciaire et tu es capable de passer justement le background check, tu as le droit d'aller à un magasin, d'acheter une arme à feu, d'acheter le nombre que tu veux de magazines, de chargeurs et de balles. Il n'y a aucune restriction. Il n'y a aucune restriction concernant le port d'armes. Et ça, je vous le dis tout de suite, mes chers amis du Québec, quand vous irez à Burlington, pensez-y à deux fois. N'importe qui peut se promener avec une arme à feu au Vermont. OK? Fait que, quel état dans ta tête qui est le plus baba cool? C'est bien le Vermont. Vous savez, c'est l'endroit où est-ce qu'ils ont le Ben & Jerry. Tu sais, les ice cream Ben & Jerry. Puis tu vas à Burlington, justement, les gens sont super green, super peace, puis tout ça. Mais c'est l'endroit, justement, où est-ce que le taux d'homicide par arme à feu est semblable à celui du Québec. Il y en a qui vont me dire, « Ah oui, mais là-bas, la population est moindre. » Quand on fait par capita, c'est par 100 000 habitants. C'est exactement le même nombre. Ou je pense que même le Vermont est un peu inférieur au Québec. Alors, ça prouve quelque chose. Ça prouve que c'est pas les armes à feu qui tuent, mais c'est la mentalité et c'est les cas perdus qui font que les armes deviennent meurtrières comme telles, ou sont des outils pour permettre des armes.
Puis on n'arrête pas de dans les médias, puis il m'est arrivé quelque chose cette semaine là-dessus. Ah oui. On n'arrête pas de décrire, bon, on doit le registre, c'est important, le contrôle des armes à feu, c'est très important. Puis on nous tape là-dessus, tu sais, on lit les journaux, on écoute la télé, puis on revient toujours là-dessus, on revient tout le temps sur le contrôle des armes à feu. Et cette semaine, il y a un blogueur qui se nomme Stéphane Berthomé. Et j'avais vu son article, son blog, là, je sais pas si on appellerait ça un article, mais bon.
C'est dans le Journal de Montréal, c'est ça?
Ouais, exactement. C'est le Journal de Montréal. Puis le gars, pour faire une petite biographie vite vite comme ça, c'est un ancien policier, c'est un fonctionnaire interministériel. Terriel, OK? Syndicaliste des policiers. Attends une minute. Non. Qui est devenu spécialiste des affaires policières, OK? Donc, mais lui, il est pour un contrôle des armes à feu. Il a écrit, son titre, c'est « Armes à feu hors de contrôle ». Hey, c'est vraiment hors de contrôle. Ah, j'en reviens pas. puis bon, il est... je vais lire vite vite ce qu'il a écrit. Il dit, au mois de novembre dernier, on nous en a passé une petite vite. En effet, le gouvernement conservateur a discrètement reporté l'entrée en vigueur des règlements sur le marquage des armes à feu qui permettraient le burinage de numéros de série afin de mieux suivre ses armes. Hello! Plus encore que le registre des armes avec lequel une telle mesure devrait évidemment être couplée, ce marquage et l'enregistrement de toutes les armes sont des éléments fondamentaux d'une société qui souhaite apporter la sécurité à ses citoyens.
Oui.
Uh-huh.
OK. Première question. Est-ce que les armes à feu n'ont pas déjà un numéro de série?
Tu peux retracer n'importe quelle arme à feu. Et là, de dire le contrôle d'armes à feu, c'est un élément fondamental d'une société qui souhaite apporter la sécurité à ses citoyens. Est-ce que chaque personne dans sa maisonnée a un agent de police, un garde armé à la porte? Est-ce que c'est ça? Parce que ça serait ça, en fait, l'élément fondamental pour que tout le monde soit sécuritaire, soit en sécurité, ce serait que chaque personne aurait un garde armé à la porte. C'est vrai, non?
Un garde armé à la porte qui va pas l'échapper. Parce que des fois, tu as des policiers qui peuvent l'échapper aussi.
Oh, oui, c'est ça, exactement. Ça veut pas dire que la personne, c'est ça. C'est pas des robots, là.
Ce que je veux dire. Et moi, ce que je me pose comme question, ce beau discours politicien, je sais pas trop comment dire ça, mais c'est politicaillot un petit peu. En quoi ça aurait prévenu l'acte de mercredi? Le drame de mercredi, est-ce qu'il aurait été prévenu avec l'enregistrement ou le marquage des armes?
Absolument pas. Absolument pas. Le contrôle dans la situation qu'on connaît. Ouais. Mm-hmm. Absolument pas. Ce qu'on pourrait faire, puis là, je veux pas donner des idées, là, pour faire du contrôle encore plus, il faudrait mettre les gens qui possèdent des armes à feu responsables des actes qui dérouleraient de leurs armes à feu, ce qui serait complètement débile.
Moi, ce que j'avais même entendu, je sais pas c'est qui avait passé ça, là. Je sais pas s'il était sérieux ou pas, mais c'est même d'avoir des endroits exclusifs, des endroits spécifiques où est-ce que les gens vont porter leurs armes à feu, un peu comme des storage, là, mais ça serait étatique. Oui. Et c'est la seule place où est-ce que les gens peuvent entreposer leurs armes.
Et si non, mais sauf qu'à la suite, c'est parce que puis là, tu vas la prendre, puis si tu veux l'utiliser, parce que c'est comme ça déjà. Si tu veux aller au chantier pour certaines armes, tu dois envoyer ton trajet à la police, dire écoute, moi je prends le chemin là, puis je tourne
pas
sur cette rue-là.
Si la route est barrée, mais je vais y aller à pied. Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est complètement débile. Sauf que pour en revenir à mon monsieur Berthomet, oui. Berthomet. Je lui ai écrit parce que moi, ce que je trouve dans cette histoire-là, c'est que c'est bien beau le contrôle. J'aimerais aussi beaucoup ça que ça existe pas des guns. J'aime pas ça. J'aimerais ça que ça existe pas du tout. C'est juste que j'en suis venue à la conclusion que, ben, écoute, ça se peut pas. Fait que tant que je vais connaître mon ennemi, donc je vais apprendre à en manier une, je vais savoir comment ça fonctionne, donc je vais être plus adéquatement outillée pour me défendre. J'ai écrit. Bon, on m'a dit que j'avais été trop gentille avec lui, mais bon, j'écris « Vous êtes réellement charmant, j'en suis tout abasourdi. Un ancien policier qui croit que l'outil utilisé dans le cadre de son travail est dangereux et qu'il doit être utilisé seulement par les professionnels. C'est comme d'entendre dire un enseignant que l'éducation des enfants doit être remise seulement aux professionnels, surtout pas aux parents. On sait jamais, il pourrait être dangereux pour leurs enfants. »
Fait que Sam, tu mets un point précis, là. Regarde, c'est exactement ça qu'on a aussi dans le système d'éducation. On essaye d'aliéner les parents, on veut plus qu'ils s'en mêlent. C'est le système. Mais là, c'est un autre sujet. Mais
c'est ça, mais c'est exactement ça. Donc, on dit, écoute, t'es pas assez intelligent, t'as pas assez de jugement pour savoir la situation qui te permettrait d'utiliser une arme à feu ou pas. Donc, on va remettre ça à des professionnels qui, eux, on est sûr qu'ils ont énormément de jugement, qui savent exactement quoi faire dans n'importe quelle situation. Puis, tu sais, on l'a vu, là, que des policiers qui n'échappent, qu'il y en a en tabarouette, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Puis il y en a énormément, des policiers. On peut pas dire que ce sont des personnes qui sont sans problème, qui ont aucune mauvaise intention, que non, ils utiliseront jamais leur statut pour faire du contrôle. Non, 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 non. C'est vraiment des gens très, très bien. Et là, M. Berthomet m'envoie une demande d'amitié sur Facebook. Wow. Hein? Je me dis, ben voyons donc.
Il a dû trouver cute sur sa page, ta photo de Facebook.
Là, il me dit, ouais,
il a
mais dans le
petit message.
Dans le blog, là, il y a juste mon nom, là. Oh. Il m'a retrouvé. Il me dit, est-ce que c'est vous qui avez écrit? Oui. c'est bien moi. Oui. Il me dit qu'il avait été content parce que bon, j'ai dit qu'il était charmant, là, bon. Sauf qu'après ça, je lui ai dit que j'aurais aimé mieux charmer son jugement.
Oh, mon Dieu.
Et il a répondu, ha ha ha, j'ai assez d'expérience pour séparer mon jugement et mes goûts. Quant à ce débat, je ne suis pas contre la possession des armes ou du tir sportif. Je suis moi-même un assez bon tireur et j'ai porté sur moi des armes pendant 15 ans en tant que policier dans les services antiterroristes. Mm-hmm. Je ne déteste pas du tout les armes comme on pourrait le penser. Je suis simplement favorable à un contrôle et un enregistrement de toutes les armes. Je ne crois pas que nous puissions être d'accord sur ce point, et il a raison, parce que je ne peux pas être d'accord sur ce point, parce que le contrôle et l'enregistrement des armes ne sert à rien, sauf à faire dépenser le contribuable.
Et pas juste ça. À long terme, et ça on l'a vu dans l'histoire, le contrôle des armes à feu sert à être mise en place lorsque t'as un gouvernement totalitaire qui décide de reprendre ses armes. Puis je dis, bon, je suis en train de divaguer, je m'en vais dans une direction qui est peut-être pas que certaines personnes veulent pas voir. Mais si tu veux contrôler ton peuple, la seule chose qui fait que tu ne peux pas le contrôler totalement, c'est savoir que ce peuple-là peut se défendre et peut avoir une façon de te renverser. Et la façon la plus facile de contrôler ça, c'est d'émettre des registres et des choses comme ça, d'être informé de ce que les gens possèdent. Et quand c'est le temps d'appliquer des lois qui sont plus ou moins acceptables au point de vue du peuple, ben eux, ils arrivent, bon, ben maintenant, on va rentrer dans les maisons, on va commencer à saisir ce qu'on sait. Et s'ils rentrent dans la maison, puis le soi-disant... l'arme ou le produit qui a été enregistré n'existe plus, mais la personne peut être passible d'une amende ou d'emprisonnement parce qu'elle a commis un acte illégal. C'est ce qu'on voit en ce moment, exactement au Connecticut. Je sais pas si tu le savais, mais depuis l'histoire macabre à l'école Sandy Hook, maintenant il y a un registre obligatoire. Mais ce qu'ils s'aperçoivent, c'est qu'il y a seulement 25 à 30 % des gens qui acceptent d'aller porter leurs armes ou d'aller enregistrer leurs armes parce qu'ils sont pas dupes. Ils savent trop bien que la première étape, c'est d'enregistrer. La deuxième étape, c'est d'avoir des inspecteurs qui vont venir rentrer dans la maison, qui vont savoir si l'arme est bien placée, puis d'émettre des amendes. Et la troisième étape, ça va être de saisir s'ils sont dans un état de crise ou quoi que ce soit. Puis, il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a aucune raison préventive à avoir un registre d'armes à feu.
Bien, en fait, on y va toujours, puis c'est la même chose pour toutes les réglementations. Dans le fond, on y va toujours au début avec la peur. Oui. Tu sais, on va montrer, ah, c'est à cause de ça, c'est dangereux. Donc, on veut vous protéger, on va faire tout pour pouvoir vous protéger. Là, j'entends Obama quand je dis ça. Mais, puis il n'y a pas juste les armes à feu. On le voit aussi avec tout ce qui est les changements climatiques. Tu sais, on amène la peur, puis on veut faire des règlements. Puis là, on y va avec des règlements qui sont des règlements planétaires. Donc, on y va avec... parce que c'est la planète qu'on sauve. Là, on peut pas sauver des petits bouts de planète par-ci, par-là. On doit sauver la planète entière. Et là, c'est là que ça devient dangereux. Parce que, tu sais, on rit bien là, du New World Order puis tout ça.
De quoi tu parles, espèce de
conspiration. L'agenda 21. C'est des choses qui existent pour vrai. L'agenda 21, ça existe, là, je veux dire. Faites des recherches, c'est pas,
c'est pas une conspiration. Non, c'est ça, ça vient de l'ONU. Puis parlant de ça, je sais dans quelle direction tu t'en vas. Tu veux faire référence à une nouvelle, nous, ça vient des États-Unis, puis on va le mettre en lien. C'est en anglais, malheureusement, pour ceux qui... Mais on va vous l'expliquer grosso modo. C'est un soi-disant expert qui a travaillé... Lui, c'est particulier, parce qu'il a été très impliqué à la campagne de Clinton pour aider à valoriser diffuser son message et tout ça. Et il a même été très, très, très présent durant la campagne d'Obama pour développer une stratégie afin que le président Obama soit de plus en plus contrôlant, très interventionniste et tout ça. Puis, je veux dire, il a très bien fait son travail parce que ce qu'on regarde maintenant avec Obama, qui est même en train de menacer le Congrès, comme quoi il y a un droit de veto, puis il peut l'appliquer n'importe quand, puis quasiment en train de dire, ben allez, retournez chez vous, parce que maintenant, c'est moi qui vais contrôler le pays, là. Ça sera même plus le président Obama, ça risque de devenir le roi Obama ou l'empereur Obama.
Ouais.
Bon, ben genre,
je devrais le faire venir chez nous pour mes enfants. Ouais. Ça serait bon.
J'aimerais ça le voir, comment il élève ses enfants. Moi, c'est ça l'affaire, d'habitude, là. C'est comme cordonnier mal chaussé, peut-être. Ah, anyway. Mais, ou il est peut-être très bon pour donner des ordres, mais peut-être pas bon pour les appliquer chez lui.
Ouais, c'est ça.
Mais, ce fameux personnage, je pense, son nom, c'est John Podesta, est maintenant administrateur à l'ONU, puis il essaye, là, avec un plan, moi, j'appelle ça machiavélique, parce que c'est vraiment, c'est assez féroce comme plan, c'est d'appliquer une pensée un peu comme ce qui était appliqué aux États-Unis, mais de façon mondiale. Et ça fait quelques années, ça fait au moins, là, moi, je pense que c'est depuis la création de l'ONU qu'on a l'intention d'établir une espèce de système international, comme un gouvernement international, et tout part justement de l'ONU. L'ONU, c'est vraiment là, c'est un... Tu sais, moi, naïvement, quand je voyais l'ONU, je pensais que c'était juste une rencontre, là. C'est un endroit où est-ce que les gens, ils se rencontrent, les pays se rencontrent, puis il y a des échanges, puis bon, mais justement, il y a des histoires comme les Jeux olympiques, puis c'est des endroits où est-ce que, justement, ils font des organismes pour les pays défavorisés, les pauvres, la petite boîte UNICEF, ça me pensait à l'ONU.
Ouais, l'UNESCO. Exactement, ouais.
C'est l'image, quand j'étais petite, de l'ONU, c'était... Puis c'est l'image qu'on veut encore présenter à nos enfants, parce que dernièrement, justement, dans les cours de Science Study, ou quoi que... Non, pas, oui, c'est ça, c'est... je ne sais plus quelle notion, mais il parlait de l'ONU, puis c'est vraiment l'image. Qu'est-ce que l'ONU? C'est un endroit où est-ce que tout le monde s'échange, puis on essaye de voir comment le monde peut être meilleur. Ben, vois-tu, ces gens-là, qu'on donne cette image-là, sont peut-être un peu plus contrôlants qu'on essaye de voir, parce que...
Ben, c'est parce qu'ils ont des idées assez... Écoute, de vouloir réglementer la planète au complet sur certains sujets, puis on amène ça toujours avec la peur, oui. Tu sais, je disais, on amène tout le temps ça avec la peur, mais là, on dit la... Puis, en fait, si tu regardes les scientifiques ne s'entendent même pas sur ces genres de peurs-là. Donc, on s'entend même pas à dire que c'est réel ce qu'on nous apporte. C'est que, tu sais, on dit à un moment donné qu'on était pour avoir une surpopulation, ce qui est carrément, complètement faux. On est loin d'une surpopulation parce que si on vivait, OK, toute la planète au complet, si on vivait comme ils vivent sur l'île de New York, donc, bon, je veux dire, ils se pilent pas tant que ça sur les pieds, là, bon... On serait tous capables de rester au Texas, dans l'État du Texas.
Une ville que,
toute la gang.
La Terre au complet pourrait s'installer dans une ville si on était comme New York, là. C'est vrai que c'est...
Dans l'État du Texas, on pourrait tous rentrer dans l'État du Texas si on vivait comme à New York. Wow. Donc, on voit qu'il n'y a pas de, tu sais, c'est vraiment une peur qui est carrément fausse. Okay?
L'autre côté qui est un peu irrationnel, à mon avis, c'est qu'un des l'agenda, puis ça, j'aime vraiment dire ça, c'est des agendas qu'ils ont. C'est vraiment des oui. ils veulent imposer une façon. C'est le premier agenda ou le premier épreuve qu'ils veulent accomplir, c'est terminer ou mettre fin à la pauvreté. Mais la pauvreté, OK, les pays qui sont défavorisés, pour quelles raisons sont-ils défavorisés? Est-ce qu'ils sont défavorisés à cause de leur au point de vue des statuts, de la situation géographique, ou surtout c'est au point de vue des conflits puis des interventions internationales? Moi, je regarde l'Afrique, par exemple. On monte tout le temps à la télévision, là. Ça, c'est une affaire, là. Tout genre, entre deux annonces, entre une game de baseball, à chaque intersection, là, tout à coup, là, t'as la pause publicitaire, là. T'as une petite fille d'Afrique qui crève de faim. Puis je dis pas ça parce que je suis une sans-cœur, mais, tu sais, l'image, mon Dieu, je sais pas ce qui vient de partir, mais quelque chose qui vient de partir. Mais,
L'image.
Ouais, c'est ça, l'image qu'on voit de cet Afrique-là,
avec la
oui.
Bouche qui tombe toujours sur le bord ouais. de la bouche, puis ça, tu sais, c'est comme si tu manges ton popcorn, tu regardes ça, puis tu as le cœur qui te lève. Est-ce que c'est dû réellement à la sécheresse? Est-ce que c'est dû réellement non. au climat?
C'est dû à la corruption.
Dû à la corruption et au fait qu'on a tellement abusé. L'élite a tellement abusé, les empires ont tellement abusé dans ces... Maintenant, il n'y a plus de richesse, tout a été vidé. Est-ce que si on les laissait par eux-mêmes, puis on disait, bon, maintenant, là, essayez de revenir à vos actes, à votre culture traditionnelle et tout ça, est-ce qu'ils seraient capables de revenir à un niveau de survie acceptable? Ils seraient capables de vivre de façon épanouie? Moi, je crois que oui. Mais oui. t'as encore le méga, c'est même pas parler ça, nanny state, là, c'est l'ONU, là. L'entité, l'ONU arrive avec ses grosses idées idéologiques et politiques et tout ça, puis a décidé maintenant, on va faire la guerre contre la pauvreté.
Bravo. Bon. Non, mais c'est parce que, puis là, faut qu'on termine, mais ce qu'on pourrait dire, en fait, c'est que si on amenait dans des pays très, très pauvres, un gouvernement libertarien, écoute, ça prendrait pas quelques années qu'on verrait vraiment améliorer les choses. Oui. C'est la corruption, en fait, qui tue pas mal tout ce qui se passe dans ces pays-là.
Oui, parce que tu regardes ça en Amérique centrale, justement, puis l'exemple là, de notre ami Dan, là, qui est en train de faire son village, son charter village, city, je pense.
City,
puis,
oui.
Puis je serais curieuse de savoir comment ça va marcher, si ça marche toujours. Ça, c'est une chose que je vais faire au cours des prochaines semaines, c'est rentrer en contact encore avec Dan, puis d'avoir de plus en plus d'informations, parce que ça serait peut-être une réplique à faire. C'est de laisser les gens, oui, la communauté, les gens, là, dans leur petite communauté, se prendre en main, de pas avoir besoin d'une entité énorme au-dessus d'eux, là, puis leur dire, c'est de même que vous devez marcher, puis c'est de même que vous n'avez pas le droit de marcher, et de voir s'ils sont capables de fonctionner comme des grands, puis de s'épanouir. Puis, parlant de ça, ben écoute, on va essayer de s'épanouir durant le week-end. On va se reposer un peu, là, puis là, on va pouvoir sortir cette semaine, ce week-end, mais il va faire beau chez nous. Fait que je vais aller prendre l'air, je vais aller apprécier la nature, et on va se reparler la semaine prochaine.